Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute! Bonsoir, hello. Alors, hola, j'ai tenté un nouveau truc et apparemment ça marche. Bonsoir déjà. Bonsoir Internet, je suis arrivée un petit peu comme ça, comme si rien ne... Voilà. Désolée, j'ai des petits bruits sur mon ordi, j'ai coupé. Plein d'infos à vous donner avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Premièrement, il y a mon chat qui a décidé de s'inviter sur ce chat. Momo, tu connais ? Faites point d'exclamation chat dans le chat si vous savez pas. Qui est ce chat qui vient squatter. Au revoir, Momo. Bonjour. Au revoir. Merci beaucoup, Mintara, qui a offert des subs. Merci infiniment. Bonsoir. Il est temps de vous donner quelques informations. La première, c'est que je suis un petit peu reb. On va pas se mentir. J'ai bu des coups. Écoutez, voilà, on a une vie indépendante, on a le droit. Du coup, voilà, 21h20, on n'est pas 100% sobre. Et aussi, on envoie énormément de love à Adibou qui devait être avec moi pour ce débrief de The Last of Us saison 1 épisode 5 et qui est malade et du coup il ne peut pas être avec moi. Mais c'est pas grave car tout va bien. Tu commences le live pile à la fin de mon livre audio d'Iezoc. Hello ! Hello les champis ! Hello la team Girol ! On est sobre ? Ceci n'est pas du tout un café pour vous faire croire que je suis pas sobre. Quoi ? Mimi seul et saoul. Putain, j'ai envie de créer un seul en scène qui s'appelle Seul et saoul. Incroyable. On va parler de zombies, on va parler de champi. Tout va bien, j'ai préparé, j'ai un conducteur extrêmement bien écrit, qui n'est pas du tout griffonné par une personne reb. Tout va très bien se passer. Je suis tight sur cet épisode. Comment vous allez ? Ce que je vous propose, c'est que, comme on est entre nous, on est seul à seul finalement, seul à soul, on va faire un débrief de l'épisode 5 de la saison 1 de The Last of Us, ça va arriver, ça va être le premier truc qu'on va faire, et après, si jamais il nous reste du temps, peut-être on fera un petit papo, petit papota, de type pas du tout prévu, mais on peut raconter des choses, sachant que j'ai eu des petites actus hein, que je peux vous raconter. Par exemple, samedi, j'étais sur la chaîne de Samuel Etienne, voilà. Là, aujourd'hui, j'ai mangé avec Joe Coco, qui est la personne qui m'a permis, entre autres, d'être sur la chaîne de Samuel Etienne. Voilà, j'ai des bails qui se sont passés. J'ai été 3 jours solo en Bretagne et je vous ai pas vu depuis. Du coup, bah en fait, il s'est passé des bails et c'est la meilleure vie. Oh, hola, hola. Alors, le train de la hype est fini et je me rends compte que la personne a le moins expliqué du monde. Car rappelez-vous, la personne est sobre. Bref, là, j'ai testé un truc, j'ai googlé Subgoal OBS. Ok, OBS, c'est mon logiciel pour streamer, comme c'est le logiciel des 3/4 des gens qui stream. Et j'ai googlé comment faire un Subgoal. Et comme vous le voyez, je n'ai pas de pied de micro. La personne est fauchée. J'ai écrit à mon agent pour lui dire « Hey, t'as pas des marques nani nana qui peuvent envoyer des pieds de micro ?» Il m'a dit « Nani nana, on se rappelle. » J'ai fait « Ok, y a pas de problème. » Mais entre-temps, j'ai pas de pied de micro et c'est quand même chiant. Donc je me suis dit « Peut-être je vais l'acheter moi-même. » Et après, je me suis dit « Hey yo !» Les subs. Franchement, c'est pas hyper cher un pied de micro. Genre, c'est pas tant de subs. Et en même temps, ça me permet de vous parler sans les mains et de jouer aux jeux vidéo pendant que je vous parle, donc c'est pas mal. Et rappelons que j'ai 2 setups de stream. Celui-là, que vous voyez, qui est magnifique. Un petit diorama, mon petit livre, des petits champis. On est ravis. Une petite citrouille avec une plante dedans. Incroyable. Mais j'ai un autre setup de stream, mais qui est l'ordi sur lequel mon mec stream, parce que c'est son ordi personnel qu'il possède. D'ailleurs, il est en train de streamer. Là, maintenant, c'est Nodus. Mais n'allez pas voir son stream, parce que sinon, vous serez plus sur le mien. Mais je l'aime quand même. Donc, si jamais vous voulez le voir galérer sur un jeu d'énigmes qui s'appelle The Witness, n'hésitez pas à y aller. Bref, lui, il a un pied de micro. moi j'ai pas de pied de micro et du coup quand je stream sur son ordi y a pas de problème, j'ai un pied de micro et je suis pas obligée de tenir mon micro à la main comme une miskina. Mais là je stream sur mon ordi à moi, je n'ai pas de pied de micro et c'est un miskina move. Et du coup je me suis dit je vais faire un sub goal pour genre financer un pied de micro parce que je suis vraiment pas sûre qu'une marque va m'en envoyer un parce que je pèse pas assez. Et du coup j'ai googlé comment faire un sub goal et normalement j'ai tout réussi sur, en vrai, peut-être je suis un peu rêve et tout, mais non, mais en vrai, j'ai fait ça sobre il y a vraiment 2 jours et c'était une épreuve et j'étais vraiment en mode, I don't know. Moi, il y a un truc qui marchait pas, genre littéralement un seul truc et j'étais en mode, I'm done, fuck it, je ne sais pas comment régler ce problème. Et après, j'ai googlé le problème. Et après, j'ai réglé le problème. Incroyable ou pas? C'était pas si compliqué. Merci beaucoup, Maxensa, pour le sub. Merci beaucoup de faire évoluer cette jauge. Est-ce que, quand même, j'ai taffé. Parce que, en vrai, genre, le orange, c'est le orange du chat, parce que j'ai pris le code de la couleur, vous voyez. Le jaune, qui est là, c'est le jaune des tournesols. Parce que j'ai pris le jaune des tournesols, parce que j'ai, genre, sélectionné la couleur et le code, hashtag, truc, vous voyez, je sais pas. Je connais le code RGB, ok? L'autre, j'ai pas. C'est quoi le hashtag truc? Tu sais faire une recherche Google, ça y est, t'as tout ce qu'il te faut pour devenir ingénieur. Merci ou The Quet, je vais me reconvertir immédiatement. J'ai hâte d'être ingénieur informatique en SS2I afin d'avoir un open space avec des néons moches, mais aussi une machine à café qui moule le grain toute seule. Ouh. Et peut-être une petite machine à eau gazeuse. Incroyable ou pas? Et aussi, j'espère, un salaire d'ingénieur et une énorme puissance de couille parce que quand même, je vais être ingénieur à la fin, donc... Si c'est pas 4000 par mois, je me taille, quoi. Je bois du café. Pas du tout parce que je suis rêve. J'arrive. J'espère que vous êtes ravis d'être là parce que moi, oui. Et en même temps, je suis là. Je suis sans fil et la mi-fin. Soyez sympa, soyez tendre et tout avec moi parce que déjà, il y a mon chat qui casse les couilles. Et aussi, je suis un peu rêve, quoi. Et je suis solo pour vous parler de Last of Us. Mais tout va bien se passer. Tout va être super. Et après, le débrief de The Last of Us, que je vais faire solo et après on parlera de vos questions et tout. Mais j'attends, alors, on fera un point. Mais après le débrief de The Last of Us, on parlera de quand j'ai été chez Samuel Etienne samedi et sur son émission pour parler de Hogwarts Legacy et de tout ce dont on n'a pas parlé hier parce que je n'ai pas fait mon stream lundi matin parce que j'avais le bide en vrac et aussi envie de dormir. Du coup, j'ai dormi. C'était pas mal. Adibou qui aurait dû te tenir les cheveux en parlant de Last of Us. J'en suis pas au point de tenir les cheveux de l'ivresse. Pour tout vous dire. Bon, avant qu'on arrive dans le sang du sang de The Last of Us saison épisode 5. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ma psy à 10h30 du matin. Alors que d'habitude, je la vois plutôt en début d'après-midi, mais là, pour des histoires de planning et de grève totalement justifiées contre la réforme des retraites, j'ai vu ma psy aujourd'hui le matin et du coup, on a arrêté de se voir à 11h30. Et je devais déjeuner vers midi, midi 15 avec Joe Coco. Joe qui est une incroyable personne, qui est à la fois prod Twitch, prod de personnes qui stream, techos de personnes qui stream et personne délicieuse de son état et qui est notamment, qui aide à la prod Samuel Etienne et qui m'avait dit, j'ai parlé à Samuel de ton profil, naninana, et c'est donc grâce à lui en partie que j'ai été sur la chaîne Samuel Etienne samedi. Mais aussi, avec Joe, on se connaît depuis un moment, parce que c'est lui qui a propulsé plein de choses chez Mademoiselle, côté stream, avec notamment Marie Camier, Marie Kigai, que vous connaissez, avec qui on fait BFF, et qui a propulsé, on va dire, la chaîne Twitch de Mademoiselle.com quand elle travaillait chez Mademoiselle. Bref, j'ai bu un petit verre de vin entre ma psy et le déj, as you do. Après, j'ai déj avec Joe. Après, j'ai bu des coups. Genre, j'ai bu un verre de vin. Après, j'ai bu 2 verres de vin. Après, on s'est dit, on va faire un peu de shopping. Et après, on boit des coups. Et on n'a pas fait beaucoup de shopping. Et on a un peu bu des coups, quoi. Donc, voilà. C'est le TLDR de comment je suis un petit peu reb devant vous. Sachant que entre temps j'ai quand même bu de l'eau et un café que je suis en train d'écluser. Mais too little, too late, je pense. Comme on dit, un petit peu trop tard. Un petit peu trop peu. Mais c'est pas grave. On va parler de Pedrito. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, dans un premier temps, comme ça après, si vous n'êtes pas intéressé par le reste, à part The Last of Us, je vous libère, on va faire un débrief de l'épisode 5 de la saison 1 de The Last of Us. Je suis certes solo, mais je sais débriefer des épisodes de série et en parler, donc tout ira bien. Et je compte aussi un petit peu sur vous dans le chat, notamment les gens qui ont joué au jeu. Parce que d'habitude, dans chaque débrief, je suis accompagnée d'une personne qui a joué au jeu vidéo et qui peut m'apporter son regard sur l'adaptation. Là, actuellement, je ne suis pas accompagnée de qui que ce soit, donc je n'ai pas de personne pour m'apporter son regard de gamer ou de gameuse sur le travail d'adaptation qui a été fait. Donc, je vous encourage, celles et ceux qui ont joué au jeu, à mettre sans spoiler, ok, votre avis dans le chat sur l'adaptation de notamment tout ce qui se passe à Kansas City, donc dans l'épisode 4 et 5 de The Last of Us, et sur comment la série a dévié ou non du jeu vidéo et comment ça a adapté bien ou non alors certes les points de scénario du jeu vidéo, mais aussi et surtout les points émotionnels, parce que je pense que c'est ça l'intérêt d'une bonne adaptation, c'est qu'on garde l'impact émotionnel de certaines scènes tout en parfois changeant complètement le scénario. Et ça s'est vu avec l'épisode 3 qui racontait l'histoire de Bill et Frank dans le jeu vidéo étant partenaires, pas forcément extrêmement précisés en termes d'amour romantique. Et surtout, Bill et Frank avec dans le jeu vidéo, spoiler pour le jeu vidéo, ok, The Last of Us 1, c'est parti, ça fait 10 ans quand même qu'il est sorti, mais c'est parti. Dans le jeu vidéo, Frank meurt mais pas Bill. Et du coup, Joël et Ellie tombent sur Bill et finissent par tomber aussi sur le cadavre de Frank qui a laissé une lettre où il déteste Bill. On en a parlé dans le débrief de l'épisode 3 avec Alibou, si je ne me trompe pas. Ici, on dévie du jeu vidéo pas mal, mais un peu moins que dans l'épisode 3 quand même. On est sur un diptyque épisode 4, épisode 5 qui vient de se conclure, donc on a déjà parlé de l'épisode 4 assez en profondeur, on va pouvoir le réévoquer, mais surtout discuter de l'épisode 5. On est à la mi-saison de The Last of Us, et comme d'habitude, petit point spoiler, alors déjà c'est pas moi qui vais pouvoir vous spoiler la suite car je n'ai pas joué au jeu vidéo, mais anyway, je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans la suite de The Last of Us, ni moi, ni mes invités, car d'habitude il y en a. Vous êtes dans un safe space. Par contre, on va probablement spoiler parfois des choses qui se passent dans le jeu vidéo, et pas des choses qui se passent dans la suite, mais ça peut arriver que par exemple on compare The Last of Us à une autre série, et qu'on spoil cette autre série, mais j'ai envie de dire, on vous préviendra si ça doit arriver. On va pas vous spoiler en tout cas la suite de The Last of Us. Et rappelons que cet épisode est sorti en avant-première un petit peu cette semaine, puisqu'il y avait le Super Bowl aux États-Unis, championnat de football américain, mais aussi de Rihanna revient sur scène faire des sons, on est ravis. Et du coup, l'épisode est sorti vendredi aux US au lieu de dimanche. Donc nous, en France, on l'a eu samedi au lieu de lundi. Normalement, vous avez eu tout le temps de le regarder, de lire mon récap rigolo disponible sur Patreon chaque lundi. Ok, j'étais à l'heure, ça, j'ai bien travaillé. Et c'était pas si compliqué parce que c'est un épisode de 50 minutes. Et je vous le dis comme c'est, ok, comme ça on y va. C'est l'épisode que j'ai le moins aimé et c'est vraiment un épisode qui m'a fait me dire peut-être c'est un peu éclaté, non ? Comme série. Ok, c'est le niveau d'opinion où on en est. Merci beaucoup Prélélé pour le sub, j'espère que tu ne vas pas le retirer en écoutant mon avis. C'était cool, deux épisodes rapprochés, dit Prélélé, mais après c'est trop long jusqu'au prochain. Oui, bah malheureusement du coup comme le Super Bowl a fait son calendrier, le prochain épisode du coup sortira 10 jours après le 5, donc le 6 sortira 10 jours après le 5, puisque il sortira le dimanche, donc le 5 est sorti un vendredi. Il y a toute la semaine entière, et après le dimanche, et il sortira le dimanche aux US sur le fameux HBO slot du dimanche soir, et chez nous, du coup, dans la nuit du dimanche à lundi. Alors, j'ai pas aimé du tout cet épisode, enfin, j'ai pas aimé du tout, j'ai pas aimé les gros... En fait, j'ai pas aimé les grosses infos de cet épisode, mais j'ai bien aimé le remplissage. Anyway... J'ai adoré alors Henry et Sam, super, super dur. Donc Henry, c'est le grand frère de Sam qui est un enfant sourd-muet, a priori. Il communique donc en langue des signes, ce qui est à la fois hyper intéressant dans un monde post-apo avec notamment une partie des zombies, donc les clickers qui sont extrêmement sensibles au bruit. mais hyper dangereux parce que du coup Sam l'enfant qui est sourd ne peut pas entendre quand il y a des ennemis qui arrivent, donc il est obligé de se reposer sur d'autres gens et notamment son grand frère. Et si son grand frère disparaît, il ne peut plus communiquer, puisque enfin tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle la langue des signes américaine, il ne peut plus communiquer. Donc moi j'ai bien aimé et je trouve toujours ça, enfin j'ai bien aimé le duo. Je trouve que les acteurs font un super travail. A priori, l'acteur qui joue Sam est un enfant sourd et c'est quelque chose qui n'était pas dans le jeu vidéo. Dites-moi si je me trompe sur le chat. Donc c'est une invention du show et je trouve que c'est hyper intéressant parce que voilà, c'est à la fois quelque chose qui le démarque et quelque chose qui le rend vulnérable encore plus que les autres personnes humaines qui l'entourent et qui sont pas encore infectées. Et du coup, bah, il est extrêmement dépendant de son grand frère, encore plus que les autres humains sont dépendants d'un ou une humaine référente. Donc je trouve que c'est hyper profond et hyper touchant. Et leur relation qu'on a déjà vu esquisser dans l'épisode 4, où du coup on voit le grenier où ils sont réfugiés et qu'on reverra dans cet épisode 5, mais aussi on voit leur première confrontation avec Joël et Ellie, avec des flingues, puisque c'est la fin de l'épisode 4, ça pose vraiment un truc de... On était déjà intrigués par ces personnages, et je trouve que le pari, qui est un petit peu risqué de « Ok, on vous les introduit vaguement dans l'épisode 4, et on va espérer transformer les scènes en épisode 5 », il est franchement relevé, parce que... Et c'est une force qu'on peut pas enlever, je pense, à cette série qui, bah, pour l'instant, en fait, d'épisode en épisode, il n'y a pas vraiment grand monde que Joël et Ellie rencontrent qui survit, plus qu'un épisode. Généralement, c'est des rencontres un peu one-shot. Mais ils arrivent à faire en sorte qu'on s'y attache et qu'on ait vraiment des émotions quand ces personnages quittent l'aventure, généralement par une mort terrible. Et là où, sur Bill et Frank, ils ont fait un vrai flashback qui durait 20 ans, où du coup, on avait toute la vie de Bill, puis celle de Bill et Frank pendant deux décennies d'apo et de post-apo. Sur Henry et Sam, on n'a pas du tout eu une telle longévité, puisqu'on a eu, on les a rencontrés dans cet épisode 5, au moment où le peuple, en tout cas les révolutionnaires de Kansas City, qui n'est pas au Kansas, mais dans le Missouri, ok ? We are not in Kansas anymore de Roti, petit ref magicien d'Oz, au moment où le peuple, en tout cas les révolutionnaires de Kansas City, ont renversé FEDRA, donc l'autorité fédérale à Kansas City, qui apparemment était extrêmement fascisante, nazifiante, on va pas se mentir. Et on commençait en plus à réunir tous les collabos qui avaient dénoncé, délationné des gens à la FEDRA de Kansas City. Donc on rencontre Henry et Sam seulement 10 jours après on les rencontre au tout début de ce drame, et ensuite 10 jours après ce drame, enfin ce drame, cette révolution populaire qui finit assez mal, on va pas se mentir. Et du coup, on n'a pas du tout autant de temps à passer avec eux qu'on en a avec Bill et Frank. Donc on n'a pas autant de temps pour développer leur relation, pour être, pour apporter de la nuance, pour comprendre d'où ils viennent. Enfin, on ne sait pas ce qui est arrivé à leurs parents, par exemple. On ne sait pas comment ils ont vécu. Pour le coup, on n'a pas de flashback. Momo. C'est mon chat Momo, il me mord. On n'a pas de flashback sur comment ils ont vécu, eux, le jour 1 de... Bah non, mais... Attendez, je vais souffler sur mon chat. Voilà. On n'a pas de flashback de comment ils ont vécu le jour 1 de l'invasion, mais enfin de l'épidémie, mais on n'a que 10 jours pour apprendre à connaître Henry et Sam et à comprendre le lien qui les unit. Et en fait, ça suffit. En quelques scènes, on est vraiment en mode « ça fonctionne, ils sont trop mimes, ça va sûrement mal finir, ça finit mal, j'ai dit, on allait spoiler tout ce qui s'est passé dans Last of Us jusqu'à maintenant, ça finit mal. Merci beaucoup. » Meluma, pour le sub, je vais remonter un peu le chat, ok ? Parce que je suis solo, mais je vois que vous parlez beaucoup, donc déjà merci de pas me laisser solo. Et on va avoir un petit peu ce que vous racontez, et notamment les différences entre le jeu et la série que vous pouvez apporter, puisque moi je n'ai pas joué au jeu. Le moment où Joël est dans la maison et tire sur les zombies pour projeter Ellie, damn daddy ! Alors oui, on va en parler. C'est à la fois une très bonne séquence, je trouve, en termes d'enjeux et de suspense, et une séquence extrêmement vidéoludique, très jeu vidéo, qui peut-être ne marche pas de fou, je trouve. C'est mon avis, et j'ai le droit légal de l'avoir. Peut-être ne marche pas de fou en série télé, quoi. No Pain No Gain dit, en effet, Sam n'était pas sourd dans le jeu. Ça, ouais, j'ai vu qu'il l'avait rajouté pour la série, et je trouve ça, voilà, je trouve ça hyper intéressant, et c'est toujours cool d'avoir, je trouve, dans des fictions post-apocalyptiques, des personnages qui sont pas à 100% ce qu'on pourrait imaginer d'une personne qui survit à une apocalypse, notamment des personnes en situation de handicap. Et bah, par exemple, je sais que l'actrice qui joue Kathleen, donc... Ah, j'ai pas révisé. Mélissa... Attends, on va y arriver. Non. Oui. Mélissa... McKinsey, c'est ça? Non. Je suis à la fois pas loin et c'est chaud en même temps. Oh. Kathleen, The Last of Us. Vous êtes ravis que je sois solo sur ce live ou pas? Car moi, oui. Ok. Kathleen est jouée par... Mélanie Linsky, waouh, j'étais à la fois pas loin et extrêmement loin. Donc, Mélanie Linsky a fait un thread Twitter notamment, très intéressant, où elle parle du fait que la physionomie de son personnage, qui, comme elle est une femme aussi, lui a été reprochée, n'est pas assez réaliste pour un perso 20 ans post-apocalyptique qui, selon des gens, notamment des gens qui n'aiment pas les femmes qui visiblement font plus que du 36, n'est pas réaliste parce qu'elle devrait pas faire la taille qu'elle a. En gros, elle devrait être plus mince parce que on est post-apo. Et elle a fait un super fil Twitter où elle défend évidemment son casting et tout ce qu'elle a apporté à son personnage de Kathleen, du coup, la chef des révolutionnaires, la sœur du précédent chef des révolutionnaires qui peut-être était un petit peu plus pacifique qu'elle, qui du coup a un corps qu'on n'imagine pas, voilà, dans une situation de forcément de survie à 1000%, mais qui en fait est là. Moi, j'ai pas besoin de... Justement, genre, être chef dans une situation de survie, c'est pas avoir à se taper les trucs physiques, c'est avoir à rester loin des trucs physiques et à dire à d'autres gens d'aller le faire. Ce qu'elle le fait pas mal, visiblement. Donc il y a, dans une moindre mesure, Mélanie... Attendez, c'est Abuse Londe ou pas ? Mélanie Linsky et ce personnage de Sam qui est sourd, qui amène des choses un peu plus intéressante, je trouve, que d'avoir juste des humains qui résistent, survivent, etc. aux zombies. Surtout que, on va en parler, perso, plus ça va, moins je crois au fait que ces humains résistent aux zombies. Enfin, littéralement comment ? Enfin, vous devriez tous être morts. Ces zombies sont hyper résistants, ces infectés, pardon, sont hyper résistants, ils vous courent dessus. Là, visiblement... nouveau type de zombie, mini boss et tout. Enfin, on est où là? On est dans un jeu vidéo et pour moi, c'est un problème. Ok, je dénonce. Alors, je remonte toujours le chat. Yeah. Waouh, j'ai un peu crié, désolé. Once again, la sobriété. Y a Fleur de Cactus qui dit. Moi, je l'ai vu arriver direct, une minute d'espoir dans cette série 5 minutes de noirceur, donc j'imagine, vu arriver direct, le fait que ça n'allait pas bien finir, même si la première traversée des souterrains est un petit peu un piège, puisque on a, ok, on va traverser les souterrains, mais les zombies TKT, ils sont sous la terre, mais tout va bien. Et t'es là en mode, bah, bof quand même, hein. C'est quand même source. Un mec de Fedra me l'a dit il y a des années, t'es là, ok, ouais, Fedra, vous avez tous décapité, ça devrait bien se passer. Mais ils vont quand même sous terre, et malgré la tension intégrale qui existe, il n'y a pas de zombies sous terre à ce moment-là. Les zombies sous terre arrivent après. Dans ce qui est peut-être la pire scène de cette saison, mais écoutez, on va en parler, pas de soucis, quoi. Izu a dit, j'ai été très surpris de la mort de Henry, donc le grand frère, alors que c'était pas illogique, mais quand elle retourne l'arme contre lui, j'ai gasp, donc j'ai sursauté. Effectivement, sur la fin, déjà que Henry tue Sam, donc à la fois son propre frère, son propre petit frère, on a un vrai thème de enfant qui meurt dans The Last of Us depuis l'épisode 1, et qui est littéralement non seulement sa seule raison actuellement de continuer de vivre, mais comme dit Bill dans l'épisode 3, il dit à Frank, you were my purpose, tu étais mon but, tu étais mon sens à ma vie, tu étais ma raison d'être là, et si tu n'es plus là, je suis plus là. Je pense que c'est ce que Henry ressent par rapport à Sam, mais aussi surtout, il a fait des choses qui considèrent lui être des choses mauvaise, puisqu'il dit à Joël je suis une mauvaise personne parce que j'ai fait des choses de... Il dit I'm a bad guy, I did bad guy things, donc je suis le méchant parce que j'ai fait des trucs de méchant, ce qui est une vision très comics. Vous l'avez, il y a un thème comics dans cet épisode et celui d'avant. de la situation et où il dit même si je les ai fait avec des bonnes intentions, qui était bah j'avais besoin d'un médicament pour mon frère et il y avait que Fedra qui pouvait me le donner et du coup j'ai dû leur vendre le chef de la résistance. Il est aussi lui dans la team. Bonjour Momo. De ce chef de la résistance, c'était une personne en qui il croyait, c'était une personne positive dans sa vie et il se pardonnera jamais de l'avoir tué. Donc il y a un côté très il y a beaucoup d'enjeux à ses morts et en même temps c'est dur de croire à une fin heureuse pour littéralement l'intégralité des personnages non joueurs de The Last of Us, c'est-à-dire les persos qui ne sont pas Joël et Ellie. Parce que là, ça commence. On est à 5 épisodes sur 9, donc on est à plus de la moitié, et il y a pas grand monde qui a survécu plus d'un épisode. Donc je suis assez curieuse. Spoilez pas dans le chat celles et ceux qui ont joué au jeu, de savoir à quel point ça va continuer cette habitude de tuer les PNJ, comme on dit, au premier épisode, voire au deuxième où ils apparaissent, ou est-ce qu'on va avoir peut-être sur les 4 derniers épisodes quelqu'un qui apporte un petit peu de longévité, mais me connaissant. Je vais me dire, oh là là, ce serait trop bien qu'on ait quelqu'un qui apporte un petit peu de... Voilà, qui est là un petit peu plusieurs épisodes dans l'aventure. Et après, ça sera la pire raclure humaine. Genre, le pire résidu de bloc WC, quoi. Genre le gouverneur dans Walking Dead. Et je serais là, oh non, mon vœu a été exaucé, mais à quel prix ? Ça me ressemble bien. Picasaurus dit, je m'attendais à des bricoles. Twitter me l'avait bien fait. Plus ou moins comprendre, mais je m'attendais à ce que ça arrive à l'adulte plus qu'à l'enfant, en effet. Ça a été bricolé-bricola pour Henria et Sam. Et après, Lélé qui dit « Je trouve, elle sert à rien, l'histoire des révolutionnaires. » Et alors, c'est intéressant, c'est un des trucs que ce diptyque d'épisodes, qui est vraiment le 4 et le 5, qui vont ensemble, puisque c'est le même lieu, c'est Kansas City, et chaque épisode est encadré de... Il y a une relation entre Joël et Ellie qui se développe, il y a un flashback dans le 5 sur Henri et Sam, mais c'est beaucoup de Joël et Ellie aussi. Rappelez-vous, dans l'épisode 4, on avait toute l'histoire de Ellie qui a son livre de vannes et qui fait des blagues de tonton à Joël, qui finit par rire à la fin de l'épisode, avant qu'il se retrouve braqué par un enfant, littéralement. Et on avait l'introduction de Kathleen. Donc cet épisode fonctionne vraiment en diptyque et il peut, du coup, surprendre sur certains aspects. Mais je pense que, à part peut-être sur... Alors perso, je dirais pas que j'ai été surprise, malheureusement, parce que j'ai trouvé... Enfin, je dis pas que j'ai tout deviné, mais j'ai trouvé certaines choses un petit peu capillotractées. Notamment la fameuse éruption de zombies qui sort du sol, parce que du coup, bah, on avait présenté dans l'épisode 4 que « Ah, il y a un trou dans le sol, et il vibre un peu. » Et Kathleen avait dit « On s'en occupera plus tard. » J'étais là « Oui, bon, d'accord. » Merci Bruno, merci infiniment pour le sub. Thank you. Tout ça pourra me payer un pied de micro afin que j'ai deux mains libres pour vous parler avec les mains, car je parle avec les mains. Et pas une seule main libre, ce qui est vraiment très triste, quoi. C'est pas une vie. Ok, question pour vous. Donc, on va faire petit à petit le fil de l'épisode et pendant ce temps, je vais vous poser des questions pour qu'on puisse discuter ensemble. On commence avec Kathleen, qui est jouée du coup par... J'ai son nom et c'est Melanie Lynskey, que j'aime trop en plus. Alors je comprends pas pourquoi je me rappelle pas de son nom. Probablement because les bières. Donc on commence avec un flashback sur la fin de Fedra à Kansas City, le lynchage de apparemment l'intégralité des troupes militaires sur place par la population et un lynchage assez vénère. Et le premier interrogatoire mené par Kathleen auprès des collabos et des informateurs et des délateurs et délatrices qu'elle a réunis. Pour leur demander où sont Henri et Sam, où est Henri notamment, parce que visiblement elle sait déjà que c'est à cause de Henri que son frère Michael, qui visiblement était le chef de la rébellion, mais aussi hein, une figure quasi biblique, puisque quand Henri en parle à Joël, il dit il y avait cet homme, en gros, qui faisait se sentir bien tout le monde, enfin qui était vraiment qui apportait du positif dans le cœur de tout le monde, donc il y a un côté très christique et qui a été tué, donc il y a aussi un côté sacrificiel. Moi perso, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc il y a ce voilà, ça s'ouvre sur ce flashback de la fin de Fedra à Kansas City, la fin assez brutale. Henri et Sam qui s'enfuient de ce massacre et Melanie Lynskey, donc Kathleen, qui interroge des délateurs et des délatrices pour savoir où sont Henri et Sam et qui leur fait croire qu'elle va les épargner et leur faire un procès, alors que, bien évidemment, elle est partie pour les faire fusiller. Même pas elle-même, mais les faire fusiller, en tout cas. Moi, j'ai Alors, j'ai trop aimé. Déjà, j'adore le personnage de Kathleen. J'adore Mélanie Linsky en général. Elle est vraiment super forte. Et j'adore les personnages qui sont calmes, mais ultra flippants. L'actrice a décrit comment elle a bossé son perso comme une forme de... C'est une prof de maths. C'est une instite de maternelle qui, du coup, s'assoit... Enfin, elle est assise sur une chaise et il y a tous ses élèves en tailleur en face d'elle et qui sont du coup pas ses élèves à ce moment-là, hein, mais la population délatrice de Kansas City. Et elle leur pose des questions et elle est un peu déçue quand ils répondent pas ce qu'elle veut. Elle est là en mode « Je suis pas en colère, je suis déçue. » Et vous allez avoir une retenue, sauf que la retenue, c'est « Vous allez mourir. » Donc, j'aime beaucoup cette énergie. Je suis très d'accord avec l'actrice sur le fait que, en fait... Si je peux croire au fait qu'il y ait des êtres zombies qui survivent plus de 20 ans, et notamment des êtres zombies géants, on va en parler, je peux croire au fait que le personnage de Kathleen ait gardé cette taille, ou peut-être qu'elle avait beaucoup plus de kilos entre guillemets avant et qu'elle en a perdu. I don't know, I don't care. Mais j'ai vraiment pas de blocage sur son physique, parce que sinon j'aurais un blocage sur pourquoi Joël il a des muscles. Et pourquoi vous avez de l'essence qui fonctionne après 20 ans, même si vous dites « Ah non, elle dure plus qu'une heure, il faut qu'on change toutes les heures, je suis là... » source vraiment The Last of Us, hein. Donc on va pas s'attacher trop à des détails et je préfère valoriser la performance de la personne qui joue le rôle plutôt que est-ce que ça ressemble vraiment au personnage de base. Donc j'adore Mélanie Linsky, j'adore Kathleen, j'adore ce qu'elle a apporté et je trouve ça intéressant que l'épisode nous apporte une backstory mais voilà en pointillé de façon un peu moins frontale que ce qui avait pu être fait dans des flashbacks d'épisodes précédents, même si j'adorais ces flashbacks et j'aimais, enfin j'espérais un petit peu qu'on ait à chaque épisode un flashback de jour 1 de la pandémie, comment les gens ont déboulé et survécu à ce jour 1, mais je me rends compte aussi que c'est à la fois un peu vu et revu dans les trucs de zombies et du coup pas hyper intéressant et pas hyper novateur, alors que là, avec des flashbacks qui se passent à différentes époques, et notamment le fait d'apprendre que ça fait que 10 jours qu'il y a eu la révolution à Kansas City, et que vraiment, à 15 jours près, ils arrivaient, il y avait Fedra, il y avait les autorités, c'était pas du tout la même Zumba. Alors, les autorités nazifiantes et Maboul, visiblement. Donc, ça aurait été une autre limonade pas forcément savoureuse. Mais c'est fou de se dire, à 10 jours près, en fait, tous ces gens, ils ont vécu toute leur aventure, ils sont en... C'est le personnage principal de leur propre aventure depuis 20 ans. Et ils viennent de renverser le gouvernement fascisant, qu'il est terrorisé, qu'il est torturé, et c'est ciao. En 2 jours. Parce que quelqu'un a mis un camion dans une maison. Incroyable. On va en parler. Je lis vos commentaires sur notamment Kathleen. J'espère que vous aimez Kathleen, car moi oui. Kathleen en mode kids die, elle n'était pas obligée de nous faire comme ça. Oui, parce que du coup, quand Henry essaye d'expliquer à Kathleen la raison qui l'a poussé à trahir le frère de Kathleen, qui est, il avait besoin de médicaments pour son petit frère Sam qui a une leucémie, visiblement, Kathleen lui répond « Eh, écoute, les gosses, ça meurt. Hein. Tous les jours, il y a des gosses qui meurent. » Et après, elle amène un truc intéressant qui est « C'est ce qui arrive quand tu vas à l'encontre du destin. » Et moi, j'étais là, ah, c'est intéressant cette histoire de destin, parce que c'est la première fois dans la série qui nous l'amène, qu'on a quelqu'un qui dit peut-être c'était la fatalité. Et souvent, dans les trucs post-apo, t'as un ou deux personnages qui sont, souvent pour des raisons religieuses, assez attachés au côté, justement, fatalité, voire châtiment divin. De peut-être c'est l'humanité qui a pas été à la hauteur, et c'est le, voilà, c'est le châtiment divin, comme le déluge qui a mené à l'Arche de Noé. Et pour l'instant, dans The Last of Us, on n'a pas vu de personnage qui est ouvertement religieux et croyant et qui amène peut-être sa foi dans sa lecture de cet apocalypse. Peut-être qu'on en verra, je ne sais pas, je ne vous spoil rien. Mais j'ai un peu cru que c'était ça le bail de Kathleen à la base, quand elle dit « You don't mess with fate », et même qu'elle a cette énergie de, comme elle dit, voilà, de comme l'actrice dit, de prof de maternelle. J'ai dit « Ok, maybe on est sur un truc de... » Pour les connoisseurs, il y a un film qui s'appelle The Mist, Brume, qui est adapté de Brume, une nouvelle de Stephen King. Et dans The Mist, le film, il y a, et dans Mist, la nouvelle, il y a un personnage, donc c'est le plot, c'est une petite ville où ça bat, après une tempête, ça bat une brume extrêmement dense. Donc le héros, c'est un daron qui va au supermarché avec son fils pour faire des petites, son fils qui a genre 6-7 ans, pour faire des petites des emplettes parce que la tempête a détruit une partie de leur réserve et qu'ils sont là, bon, il n'y a pas trop d'électricité, on va y aller. Et pendant qu'ils font leurs emplettes, la brume s'épaissit autour du supermarché et quelqu'un rentre dans le supermarché en disant « Il y a des créatures dans la brume, il faut pas y aller, c'est mortel. » Et du coup, ils sont coincés dans le supermarché. Et dans le film, comme dans la nouvelle, il y a un personnage qui vrille assez vite, en mode il faut faire des sacrifices humains et on a tout mérité, et c'est une personne qui est extrêmement croyante. Donc je pensais un peu que maybe on allait arriver là-dessus avec Kathleen, et au final pas du tout. Après Isua rappelle qu'elle se fait tuer par une enfant, ce qui est extrêmement ironie dramatique pour le perso qui a dit hey, les gamins ça meurt, c'est pas si grave. Ben, en fait des fois les gamins ça meurt, et ça revient littéralement te bite in the face, donc te mordre au visage quoi. Blopou dit « J'ai trouvé le jeu de l'actrice assez cool, mais en termes de personnages, ils en font pas grand-chose, elle est pas très bien écrite. » En fait, je pense que je l'ai trouvée bien écrite dans le sens où j'ai compris qu'il y avait plein de choses qui se cachaient derrière et que, en fait, ça m'a donné envie d'avoir un spin-off sur elle. Ce qui veut dire qu'elle est pas mal écrite parce que sinon, je m'en serais foutue. Mais je suis d'accord qu'on en sait tellement peu sur elle. Et alors, elle, je sais que donc le personnage de Kathleen n'est pas dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y a la milice de Kansas City qui est du coup tous ces révolutionnaires qui sont un peu des ennemis sans visage qui servent à te ralentir et te faire peur pendant que tu dois sortir de la ville et abandonner ta voiture que t'as trouvée chez Bill, etc. Dans le jeu, ces membres-là n'ont pas de chef et il n'y a pas un personnage qui va incarner l'intégralité de la révolution populaire à Kansas City. Là, du coup, pour la série, ils ont créé le personnage de Kathleen et je sais que le co-créateur de la série, Craig Mazin, à qui on doit Tchernobyl, du coup, sur HBO, et qui est beaucoup inspiré par à la fois, évidemment, plein d'esthétiques post-apocalyptiques et plein d'œuvres post-apocalyptiques, mais aussi l'histoire réelle de l'humanité, puisque Tchernobyl, le saviez-vous, c'est réel. Il a notamment invoqué la terreur en France et les années qui ont suivi la Révolution française pour parler de cette création de soulèvement populaire à Kansas City et de ce personnage de Kathleen et cette idée de, en fait, quand tes ennemis exercent assez de violence, le seul choix qui te reste quand tu finis par te rebeller contre eux, c'est d'exercer la même violence contre eux. Mais du coup, est-ce que tu deviens pas aussi pire qu'eux, finalement ? Et aussi, après une révolution populaire, souvent il y a une période de chaos et de dommage, alors peut-être pas au même de la même ampleur, je suis pas là pour débattre si la terreur c'était aussi pire que la royauté ni rien, mais en tout cas c'est pas, et on l'a vu à moult et moult reprises dans l'histoire de l'humanité, c'est pas un long fleuve tranquille une fois qu'on a destitué les souverains et les souveraines de droit divin quoi. Donc c'est intéressant de voir que la série aborde, même si c'est pas le sujet principal de ces deux épisodes, cette idée de, oui, tu peux te soulever contre une force fascisante, mais ça veut pas dire qu'à la fin sera mieux. Et Joël et Ellie, ils arrivent là-dedans et ils sont autant en danger, voire plus qu'ils l'étaient à Boston, et bien plus en danger qu'ils l'étaient dans la nature dans l'épisode précédent. Car l'homme est un loup pour l'homme. Alors Stinian, au sujet de Kathleen, dit: j'ai trouvé son désir de vengeance envers et contre tout complètement pété. J'ai pas réussi à y croire. Elle fait exactement ce que Henry a fait pour Sam et ça m'a saoulé. J'avais vraiment l'impression qu'elle voulait pas réfléchir et qu'elle était grognonieux. Alors je suis d'accord sur le fait qu'elle voulait pas réfléchir. Je pense vraiment que son perso ne veut pas réfléchir parce que si tu réfléchis, tu te rends compte que t'as tort. Et je pense qu'elle est dans ce truc et elle le dit. Du coup, dans cet épisode, il y a quand même une scène hyper intéressante. Où c'est Kathleen dans sa chambre d'enfance avec un perso qui s'appelle, j'ai noté, Perry, qui apparemment en plus est joué par la personne qui, du coup, l'acteur doublait Tommy, le frère de Joël, dans le jeu vidéo. Et il a cette gueule-là et cette dégaine-là, et il joue du coup dans la série, ce qui est incroyable, et il meurt, on en parlera pour le bloater, mais d'une façon quand même amazing. Mais quand ils ont ce dialogue, donc Kathleen et lui dans la chambre d'enfance de Kathleen, qui lui demande « Et toi, tu reviens des fois dans ta chambre d'enfance ?» Et il a « Bah non, parce que j'ai pas grandi là. » Et je suis là « Bah, vraiment, c'est bizarre comme conversation à avoir 20 ans après le désastre, ok ?» Perry, qui est effectivement extrêmement canard sur Kathleen, comme le note Isua, elle a une conversation avec lui où elle dit en gros son frère, qui était du coup ce genre de sauveur quasi mystique pour la population de Kansas City, qui était pire que malmené par Fedra, hein. On est sur vraiment, encore une fois, un délire nazifiant de y violer, y torturer, y kidnapper. C'est pas genre, nous on a vu à Boston, Tess, Joël, etc. C'était rigide de fou et militariste de fou et probablement fascisant. Mais il y avait quand même Joël qui faisait du trafic de drogue, ça arrivait. Il y avait Tess qui faisait des petits bails. Il y avait des moments où on pouvait se planquer. Il y avait des genres de forces de l'ordre qui protégeaient quand même la population quand les Fireflies et les forces de l'ordre se tiraient dessus. Voilà, il y avait quand même un semblant d'ordre, des rationnements, des trucs de job et tout. Là, apparemment, à Kansas City, c'était big nono. Fedra était parti en full... il faisait Saw, je pense. Je pense, ou Human Centipede, ou The Purge, ou un truc comme ça. Ils faisaient un film d'horreur, quoi, dans leur propre zone de quarantaine. Et la population a fini par dire « C'est ciao, c'est marre !» et faire son soulèvement populaire qui sert du coup d'introduction à l'épisode, ce que j'ai trouvé trop chouette. Moi, j'adore les flashbacks, comme je vous l'ai dit. Même si celui-là est daté un petit peu moins, c'était pas le jour 1 de la pandémie, je trouve que c'est toujours bien d'avoir des petits flashs de comment on en est arrivé là. Et d'avoir cet exemple de violence extrême où en plus, au début... C'est un peu confus, quoi. En tant que public, on n'est pas 100% sûr de qui exerce de la violence sur qui. Est-ce que c'est de la violence légitime? Est-ce que c'est des infectés? Est-ce que c'est des humains sur des humains? Est-ce que c'est des humains gentils, entre guillemets, contre des humains méchants? Et qu'est-ce que ça veut dire, des humains gentils et méchants? Et c'est la question que la série et l'épisode va continuer à nous poser. Mais après, on voit assez vite, voilà, des gens lynchés, des gens... Bah, y a notamment un corps qui est traîné à l'arrière d'une voiture avec... un milliard de couteaux plantés dans son torse et tu te dis ok bah il y a pas de situation qui justifie une telle violence. Là on n'est pas, enfin cette personne est morte, elle présente plus un danger pour personne, donc on est plutôt sur des gens qui pètent un câble et tu comprends qu'ils pètent un câble parce que Fedra à Kansas City c'était pas Fedra genre vaguement baiser la droite, c'était Fedra genre la droite avec le gude quoi. Et c'est ce que Henri finira par expliquer à Joël après. Donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir commencé par ce flashback qui montre à la fois la violence qui a été exercée, mais qui du coup laisse aussi déduire si cette violence-là a été exercée, ça veut dire qu'avant, enfin que les gens qui ont exercé cette violence se vengent d'un truc encore pire. Et du coup, arriver sur le personnage de Kathleen, ça nous montre encore plus sa force, mais je suis assez d'accord avec la take de... Peut-être que sa backstory à elle, qui du coup, encore une fois, a été 100% inventée pour la série, est un peu light et que ça commence à devenir un peu confusant, je trouve personnellement. Alors pas confusant parce que c'est pas dur à suivre de sauter de, j'allais dire, c'est un peu confusant de sauter de Joël et Ellie à Henry et Sam à Kathleen et Perry ou whatever. C'est pas confusant dans le sens c'est dur à suivre vraiment, ces trois duos de personnages, mon cerveau fonctionne. Mais... on n'a pas le temps de creuser quoi que ce soit. Donc c'est un peu, on papillonne d'un bout à l'autre et on est là, ok, bah il y a Henri et Sam, on commence à les connaître, il y a Kathleen, on commence à la connaître, il y a Joël et Ellie, on commence à les connaître, mais on a passé tout le troisième épisode, par exemple, qui durait 1h20 quasiment sans eux, donc il va falloir qu'on s'y attache et qu'on s'abandonne, et pour une flèche qui nous empoisonne. Et j'ai dessoulé un peu, mais je suis pas moins un sup. Et du coup... J'étais contente d'avoir un flashback sur la rébellion à Kansas City, mais j'étais un petit peu sur ma faim quand même de « Ouais, ok, c'est bien, mais c'est un peu light. » Je vais lire le chat pour voir ce que vous racontez, car je ne peux pas faire les deux choses en même temps, vous le savez. Gros débat sur la scène dans la chambre. Est-ce que ça devient décrépit en 20 ans seulement, alors que le motel en fin d'épisode, il est douillé? Je pense que ça dépend énormément de est-ce que les portes et les fenêtres étaient ouvertes ou pas. L'introduction de la nature et de l'humidité et de la moisissure... dans les bâtiments de The Last of Us, parce que par exemple, bah, dès l'épisode précédent, Joël et Ellie se cachent dans un grand immeuble de bureau absolument immaculé quand même. Et ils se font des lits avec les coussins des chaises de bureau, et ils n'ont pas de la poussière dans l'intégralité de leur muqueuse, je suis là... Fake. Fake néanmoins. Sarah Mush dit « Le plot fate de l'épisode, c'est... Henri a déclenché la révolte de Kansas City pour sauver son frère qui mourra de toute façon avec tout Kansas City. Si Henri n'avait pas tué le frère de Kathleen, Fedra serait toujours en charge, mais tout le monde ne serait pas potentiellement mort. » Alors non, pour moi, Kathleen et Perry et le reste des habitants, en tout cas des révolutionnaires de Kansas City, auraient pris Fedra anyway. Même si... Parce qu'en gros, là-bas, c'est qu'il y avait un mouvement révolutionnaire qui était mené par un mec, Michael, qui était le frère de Kathleen, qui était un genre de voilà de figure un peu biblique, christique, qui avait plein de gens qui le suivaient parce qu'il croyait en ce qu'il disait et qui était apparemment assez sympa. Effectivement, quand Perry et Kathleen discutent dans la chambre d'enfance de Kathleen, Perry lui mentionne que son frère était plus doux qu'elle, moins vénère. Du coup, peut-être qu'effectivement, il dit que ça serait pas arrivé sans elle et du coup, potentiellement sans la mort de son frère Michael. Confirmez-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Mais en tout cas, la révolution était visiblement déjà en cours parce que ça faisait vraiment des années, voire des décennies, que la Fedra de Kansas City infligeait, encore une fois, supplices et sévices à la population civile, qui a fini par se rebeller au prix de plusieurs, de nombreuses vies, et notamment de celle d'une partie de la population qui était collaborateur et collaboratrice avec Fedra, et d'une partie qui était soupçonnée de l'être, et aussi bah, évidemment de tous les gens qui sont morts pendant les combats, dont avant les combats, Fedra a tué le frère de Kathleen, ce qui a fait de Kathleen la meneuse de la résistance, et Kathleen, elle a pas le time, puisqu'elle dit que son frère, Michael, le fameux chef de la résistance, lui avait dit avant de mourir, fais la paix, pardonne, ne cherche pas à me venger, et elle était là en mode, il me l'a dit. Il me l'a dit. Voilà. Mais le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? Il l'a dit. Voilà. Il l'a dit, et puis on a décidé de pas le faire. Merci beaucoup Kamkam pour ton sub prime. Merci beaucoup pour bientôt un pied de micro pour Mimi. Est-ce que ce sera pas incroyable de plus être comme ça quoi? Oh, il y a Laura Joy qui dit « Je viens de finir l'épisode 5 et je sanglote toujours un peu. » Alors en vrai, depuis le début, je dis que j'ai pas aimé l'épisode, ce qui est vrai, je l'ai pas trop aimé. Mais j'ai quand même eu des émotions. Ok, j'ai adoré Henry et Sam et j'étais triste à la fin quand... Spoiler, les deux, ils meurent. Mais en même temps, j'étais là... What did you expect? Faut qu'on... Alors, on va parler... Alors, donc, on va parler de Henry et Sam et de leur storyline. Après, on va parler de l'invasion de zombies, parce que we have to talk about l'invasion de zombies. Et après, on va parler de la fin de cet épisode, donc de la fin de Kathleen et de la fin de Henry et Sam. Ok. Henry et Sam, leur relation, leur planque et la façon dont on les rencontre, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que, en fait, on les rencontre, du coup, comme on se rend compte, ça fait que 10 jours que Fedra a été renversée à Kansas City, donc ça fait pas si longtemps. Ils sont dans un grenier où on a vu Kathleen aller fouiller dans l'épisode 4, donc voilà, on est en train de rattraper assez vite la timeline qu'on a déjà, où le docteur que Kathleen tue dans l'épisode 4 les a installés. Docteur qui est mort parce que collaborateur, mais en même temps, à ce moment-là, on savait pas... Ça voulait dire quoi, collaborateur? Et là, on le voit juste aider un mec et son frère à se cacher et avoir de la bouffe. Donc t'es là, ah, il est pas vraiment méchant. Il s'est vraiment fait tuer alors qu'il est pas vraiment méchant. Mais d'un autre côté, si on se met du côté de Fedra et Kansas City, c'était un peu les nazis. Bah, si tu vends des gens aux nazis, voilà. Compliqué. Hein. Mais comme on n'a pas tous les détails, c'est pas simple de se faire une opinion. Et je trouve que c'est limite un poilito facile du coup. Parce qu'on n'a pas à se demander... Genre, on voit que les collabos sont fait fusiller alors qu'on leur avait dit qu'ils auraient un procès. Et ça, c'est big no-no. C'est very, la convention de Genève pas respectée. Mais par exemple, bah, le docteur qu'on voit se faire fusiller dans l'épisode 1... Dans l'épisode 4, pardon, dans l'épisode précédent. On se dit, bon, il a pas l'air de l'avoir mérité. Dans l'épisode... Et en fait, il a quand même collaboré avec... finalement des nazis, mais en même temps il avait pas trop le choix, parce que genre Henry il l'a fait aussi, et il avait pas trop le choix, parce que c'était pour sauver son frère, et en même temps Kathleen à la fin lui dit mais pourquoi ton frère il vaut plus que mon frère, et je suis là, ben c'est pas une mauvaise question, l'homme est un loup pour l'homme, c'est compliqué. Mais du coup voilà, on a cette introduction avec la fin de Fedra et Kathleen qui cherche Henry et Sam très fort, et Henry et Sam qui se cachent, et on commence à avoir Hello Birdseye. On commence à avoir l'introduction du coup de ce thème comics et super-héros qu'on va creuser plus tard. Et surtout, ce que j'ai trouvé le plus intéressant... Alors, il y a deux choses que j'ai trouvé hyper intéressantes. C'est la première, comme on en a parlé, c'est la surdité de Sam, l'enfant, qui du coup parle en langue des signes américaine, et son frère aussi. Et ça apporte... Alors, on a parlé de ce que ça apporte dans l'intrigue à la... En termes de, certes, c'est une personne qui, enfin, c'est Sam est particulièrement vulnérable à la fois parce que c'est un enfant et parce qu'il peut pas se rendre compte de s'il fait du bruit déjà. Donc, par exemple, les cliqueurs qui sont hyper sensibles au bruit, bah Sam il peut pas faire grand chose pour pas faire de bruit parce qu'il entend pas forcément qu'il fait du bruit. Et en numéro 2, il peut pas entendre si un monstre, un infecté arrive derrière lui par exemple, parce que ou un humain avec un flingue, parce que il l'entend pas. Donc, il est doublement vulnérable et aussi c'est un enfant, ou triplement vulnérable. Et en même temps, je me suis perdue. Donc on a ce thème de Henry qui protège son petit frère. Oui, voilà. Bah, c'est bon, on est là. Ah oui, et c'est le deuxième thème très important, c'est que on a le thème de Henri qui protège son petit frère, qui est en plus, part relativement perdant, et on voit que vu son âge, il est né dans ce monde-là. Et Henri a pas l'air hyper vieux non plus. On a, alors dans l'épisode, on n'a pas spécifiquement son âge, mais il est possible, donc on sait que ça fait 20 ans qu'il y a eu la pandémie. Peut-être que Henri a genre 22 ans et que du coup, il a très peu de souvenirs. Il a pas de souvenirs du monde d'avant. Et Sam a très clairement moins de 8 ans. Donc, comme Ellie, mais encore plus jeune, c'est un enfant qui n'a pas connu le monde d'avant, ce qui est triplement, quadruplement triste. Et l'autre thème que je voulais aborder, c'est que pour la première fois, je pense, de façon aussi frontale, on voit Joël et Ellie, mais notamment Joël, vu de l'extérieur, puisque on a une vue de Henri et Sam, mais notamment Henri, qui surveille par la fenêtre et qui voit Joël tirer sur des humains de Kansas City dans la station-service, donc la scène de bagarre qu'on a eue dans l'épisode 4, et qui le voit de l'extérieur, et en fait, le voir de loin, c'est vraiment genre, nono, ce mec-là, on va pas aller traîner avec, il a l'air maboule, il est hyper vénère, il tue des gens sans sourcier, en plus, bah nous, on sait qu'après, il a été achevé au couteau, le jeune Brian qui s'était pris une balle par Ellie. Et je trouve que c'est intéressant de le voir de l'extérieur parce que nous, on a à la fois cet affect, évidemment, pour le personnage et pour Pedrito Pascalito. Et pour, on voit le soin qu'il apporte à Ellie, on voit à quel point il fait attention à elle et il la protège. Mais en fait, les personnages qui les rencontrent pour la première fois, ils ont pas du tout ces bails et ils sont juste en mode « Ma boulitax 4000 !» Donc, j'ai trouvé ça hyper cool de montrer à la fois c'est qui Henri, c'est qui Sam, c'est quoi leur lien, hyper vite. Sam, c'est le petit frère de Henri. Sam, il est sourd et muet, a priori. Il parle en langue des signes. Il communique beaucoup aussi avec les comics et les symboles des comics qui, du coup, sont des super-héros, qui luttent, qui sont des gens de... En fait, c'est intéressant parce que... Ok, là, on part en mimi. Merci beaucoup, Sunny, pour l'abonnement. Désolée, j'avais pas vu. Merci. Ah, bah, ça va. Ça vient d'arriver, j'ai pas trop raté. Merci beaucoup, Sunny. Love you. Soon, un pied de micro pour Mimi. On est à plus de la moitié. Amazing. Petit détail intéressant. Dans les comics qu'on voit peints sur les murs dans l'épisode 4 et 5, les super-héros, à la base, ont des uniformes de Fedra. Donc, il y a un peu un truc de... Est-ce que c'est dans le comics ou dans l'imagination de Henri et Sam des gentils, entre guillemets, soldats de Fedra qui se sont retournés contre leur hiérarchie pour aider les gens. Peut-être que c'est une des façons dont Henri a essayé d'aider Sam à faire la paix avec le fait qu'il y avait des humains qui étaient en uniforme et qui étaient censés être gentils et qui tuent des humains. C'est qu'il lui a dit non, mais il y en a des sympas qui vont se rebeller contre, enfin, comme plein de super-héros se rebellent contre leur employeur qui se révèle être toxique, comme Hydra, par exemple, dans les Avengers. Et ça rajoute un truc en plus de Sam, il est conscient que Fedra, c'est les méchants, mais aussi que ça peut être les gentils. Et du coup, c'est vraiment très triste. Ah, il y a Isua qui dit « Je suis nulle avec les âges et j'ai clairement cru que Henri, c'était le père de Sam. » Alors, je pense que statistiquement, c'est possible en termes d'âge. Après, il dit, voilà, il dit assez vite que c'est son grand frère. Et je trouve qu'il y a des mini-subtilités où il agit pas exactement avec lui comme un père. Il le nourrit, il le rassure, il prend soin de lui, il n'y a pas de problème, mais je trouve que il agit pas exactement avec Sam comme Joël agit avec Ellie, par exemple. Alors certes, Joël est désagréable avec Ellie et il se protège, mais c'est aussi une relation très paternelle, on va pas se mentir. C'est un petit peu le thème, vous l'avez chez vous. Et d'ailleurs, dans cet épisode, Henri dit à Joël « T'es pas le père de Ellie, mais t'étais le père de quelqu'un. Je peux le voir. Genre, ça se voit. » Et j'étais là « Ah, c'est vrai. » C'est dur. Donc effectivement, Henri pourrait être, je pense peut-être, le père de Sam s'il l'avait eu jeune. Mais il dit assez vite que c'est son frère. Et ça explique aussi, ça... il est vraiment désemparé. En fait, il est à la fois... Il est mis super rassuré, en mode « T'inquiète, on prend les tunnels. » Il rassure beaucoup aussi son frère de « T'inquiète pas, les méchants, ils vont pas nous trouver, on va les suivre et tout. » Et il fait... Enfin, en vrai, la fin de l'épisode 4, du coup, c'est, et le début de l'épisode 5, c'est un coup de poker, parce que leurs flingues, ils sont pas chargés, et qu'il est là, j'ai jamais tiré avec un flingue de ma vie. Clairement, Sam non plus, et Sam, il a 7 ans. Donc, c'était un vrai coup de poker, mais bon, tu réveilles quelqu'un avec un flingue sur la tempe, c'est un coup de poker avec un petit peu d'aide. Et il lui dit, assez vite à Joël, en fait, j'ai jamais tiré avec un flingue, j'ai jamais été violent, donc même si j'avais voulu, clairement, j'aurais pas pu, quoi. Et je sais pas c'était quoi son plan pour sortir solo avec son frère, mais en tout cas, il est bien content d'avoir trouvé Joël, parce qu'il l'a vu, parce que non seulement il l'a vu tuer des gens dans la station service de l'épisode 4, et ça l'a horrifié, mais tout comme Ellie, ça lui a aussi dit, ah ouais, le gars, il peut carry. Le gars, il peut nous aider à avancer et à atteindre l'endroit où on doit être. Donc, autant être dans sa team, comme ça, il nous aide, quoi. Ce qui est intéressant comme rôle que Joël prend, malgré lui, celui de protecteur, et on voit qu'en plus, ça le fait chier et qu'il est là, non, traînez pas avec nous. Et après, 10 minutes d'épisode après, il est là, ouais, ok, on est 4. Et je suis là, bon, c'était pas si dur, quoi, finalement. Mais Luma dit, il y a un dessin dans la sorte de garderie dans les souterrains avec des personnes de Fedra dessinées et la mention de protecteurs. Ouais, on va parler des souterrains avec les dessins d'enfants, c'était horrible. Matt dit, j'ai trouvé vraiment cool le fait que Henry prenne le soin de toujours impliquer Sam dans les conversations et les plans avec Joël et Ellie, ne jamais le laisser à l'écart malgré sa surdité. Alors oui, tout à fait. Donc, pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, le personnage de Sam n'est pas sourd dans le jeu vidéo, visiblement. Et du coup, tout cet arc, entre guillemets, a été rajouté pour la série. L'acteur, a priori, est lui-même atteint de surdité. Donc, c'est aussi cool d'avoir... Enfin, vraiment, il y a 10 ans, un jeune noir sourd dans une série n'aurait jamais été joué par un jeune noir sourd. C'est la vie, ça ne serait pas arrivé. Et là, ça arrive, et c'est limite un non-sujet tellement c'est, bah oui, en fait, c'est, bah, pourquoi pas. Il y en a sûrement des jeunes acteurs afro-américains sourds qui sont talentueux, donc pourquoi pas les prendre. Bah, il y a un moment, on aurait dit, mais parce qu'il y en a pas, c'est chiant de les trouver et tout. Et là, HBO a dit, non, vraiment, ça se trouve. Et ils l'ont trouvé. Vraiment, extrêmement talentueux, les deux acteurs d'ailleurs, qui jouent Henry et qui jouent Sam. Et, tu peux, moi, j'ai beaucoup aimé l'arc surdité, même si je sais que, enfin, c'est aussi un truc de, voilà, il n'y a pas énormément de personnages en situation de handicap dans ce genre de fiction. Ils meurent assez vite, du coup, c'est un peu frustrant. Mais tout comme il y a un cliché de fiction qui est, dès qu'on a un personnage homosexuel, il meurt assez vite. C'est un cliché qui s'appelle « Bury your gays », littéralement, « enterre tes gays »,« enterre tes homosexuels ». Ou enterrer vos homosexuels si vous voulez, vous voyez. Mais dans l'épisode 3, même si on a un couple d'hommes qui décèdent, ça rentrait pas vraiment dans ce cliché parce qu'ils ont eu le temps de vivre une vie épanouie et heureuse avant. Je pense que même si le personnage de Sam qui est en situation de handicap meurt, il meurt pas parce qu'il est en situation de handicap, déjà, ça n'a rien à voir. Et on est dans une série où pour l'instant personne ne survit plus d'un épisode globalement, donc c'est pas, enfin, un épisode et demi. Donc c'est pas si surprenant, et au moins c'est pas puni, on va dire, par la série. Mimi est redevenue sobre et ça fait zizir. Mais oui, Madame Wolowitz, qui était ivre. Merci. Personne. Oui, je suis d'accord, dit Omelette Douce. Ce serait bizarre de revenir sur le personnage de Bill et Frank dans 2 saisons alors qu'ils sont dead, ou alors il aurait fallu réserver l'épisode 3 pour plus tard et trouver une façon habile de l'introduire. En tout cas, j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire de ces deux-là, celle d'Henri et Sam aussi. Juste, je peux pas blairer Kathleen et je trouve qu'on a perdu énormément de temps avec elle à l'épisode 4. Oui, alors je sais que le personnage de Kathleen a divisé, mais je pense que c'est... En fait, les gens qui la trouvent insupportable et un peu... qui ont un peu envie de la baffer, je suis là, bah oui, c'est le projet, en fait. Enfin, c'est le personnage qu'elle joue. C'est cette forme de... Alors, je vois qu'il y a des gens qui parlent de Karen dans le chat. Bon, Karen, c'est un terme... c'est un prénom déjà, et c'est un terme qui est utilisé pour désigner une forme de femme plutôt mère de famille, plutôt cadra, je dirais, cadra sportive, un peu mère au foyer, qui sont hyper exigeantes, c'est ça le truc, hyper irrespectueuses, et qui du coup vont faire chier notamment le personnel de plein d'endroits où elles vont, en demandant par exemple à parler au manager. C'est cette fameuse meuf qui va vouloir parler à ton manager pour littéralement 12 centimes de moins sur sa commande, et t'es là en mode, frère, ça fait vraiment 27 minutes que t'es là, peut-être qu'on s'en bat les couilles. Et elle est là, non, le client est toujours roi ou pas, et t'es là, je suis fatiguée de toi. Donc le Karen est devenu un terme un petit peu dérogatoire, ce qui est déjà triste pour plein de gens qui s'appellent Karen et auxquels on ne souhaite que du bien. Et aussi, je suis pas arrêtée sur mon avis sur le trope, le cliché de Karen, mais je suis un peu en mode, c'est marrant que ça touche que les femmes. Genre, c'est quoi la Karen au masculin? S'il y a un nom pour la carano masculin, et genre, je sais qu'il y a des noms pour des types d'hommes un petit peu moqués, genre les Chad, qui sont les mâles alpha hyper musclés, hyper virils, par exemple. Je sais pas c'est quoi la carano masculin, et s'il y en a pas, ça veut dire quelque chose, ok? Ça veut dire que maybe, c'est une insulte au genre. Et, mais par contre, voilà, Kathleen a un petit peu cette énergie de... mais un peu full Dolores Umbrage. Ouais, mi Dolores Umbrage, mi la meuf évangéliste dans The Mist, qui est hyper flippante et qui est peut-être... Enfin, on en revient à cette idée de la métalloupe pour l'homme et parfois le plus grand danger, c'est pas les infectés qui sont sous la terre, alors qu'on a décidé qu'on s'en était débarrassé, mais genre, ils vont jamais revenir, MDR. C'est les gens. Et effectivement, je pense qu'une meuf comme Kathleen, avec des gens qui la suivent, et avec assez de charisme pour motiver des mecs armés à suivre ses ordres, comme on le voit, ça tourne assez mal. Et j'ai bien aimé, pour le coup, la scène où Perry et elle parlent, encore une fois, dans sa chambre d'enfance à elle, parce qu'on voit, même si on la... Moi, j'ai trouvé qu'on la comprend pas à 100%, mais c'est pas grave. En fait, je suis OK avec le fait de « il faut remplir les pointillés ». Il faut remplir les trous. On est en fait The Last of Us, c'est une série qui avance à toute vitesse parce que c'est un jeu vidéo et que dans les jeux vidéo t'avances. On parlera du fait peut-être que cet épisode est très vidéoludique parfois à son détriment. Et du coup, il faut avancer d'une zone à l'autre. Donc en fait, on va pas arriver à Kansas City et se poser à Kansas City. Mais c'est intéressant d'arriver genre en fait Kansas City a eu sa propre histoire. Voilà, il y a une Fedra hyper nazifiante, révolution populaire, etc. Nous, on arrive 10 jours après, on est là en mode « Ok, on sait pas » et tout. Et du coup, bah, on a que quelques scènes entre Perry et Kathleen pour comprendre pourquoi bah Perry et ses potes, donc Perry qui représente un peu tous les mecs bourrus, armés, combatifs de Kansas City, pourquoi il suit Kathleen alors que visiblement c'était son frère le leader. Et en fait, on a juste quelques répliques où il la regarde et il est hyper ému et il est là en mode « C'est toi qu'on suit en fait ». C'est toi qu'on suit. Et je suis là. En vrai, banger, tu vois, t'as un peu envie de. T'as un mec comme Perry qui dit c'est toi qu'on suit. Je suis là. Ouais, on va faire mes trucs, du coup, tu vois, ça me hype un peu. Et aussi, même si c'est pas le sujet total. C'est pas le sujet ni de l'épisode 4 ni de l'épisode 5, je trouve que c'est intéressant. Et pour le coup, c'est quelque chose que l'actrice Melanie Lynskey, dont j'ai maintenant retenu le prénom car j'ai dessoulé. Que l'actrice a évoqué dans son thread Twitter sur son casting dans The Last of Us, c'est qu'elle a pas besoin d'être physiquement entre guillemets tight et musclée parce qu'elle a des gens qui la suivent. Et en fait, il suffit d'avoir du charisme et d'avoir des gens qui te suivent. Et ben bah, comme on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, les chefs d'État, chefs FS ou chefs fa 2FES n'étaient pas toujours les meilleurs combattants et combattantes. Il y a pas besoin. Quand t'as assez de gens qui te suivent et qui te protègent, y a pas besoin. Et je trouve ça intéressant. Ouais, Sarah Mush qui dit « Le monde ne tourne pas autour de Joël et Ellie, même si nous, on est focus sur eux. » Oui. Bon, du coup, on va parler de l'aspect un peu très jeu vidéo, non ? De cet épisode. C'est, franchement, ça commence à me sortir un peu du bail, on va pas se mentir. Je trouve que ça se voit à des kilomètres au point où on en est, les séquences qui font très jeu vidéo. Je trouve que c'est pas réaliste, surtout le problème c'est que j'y crois pas. Et genre je peux croire à des zombies champis, ok ? Je peux croire à des zombies champis de différentes formes et de différentes couleurs et de différentes morphologies, même si on en parlera, mais le gros machin là dans cet épisode j'y crois pas, ça marche pas. Mais à partir du moment où on rentre dans une dynamique de jeu vidéo de fou, je suis là, en fait... il va falloir me le justifier un peu mieux en termes de choix des personnages. Et là, par exemple, donc ils se font... donc Henry, Sam, Joël et Ellie décident d'aller dans les souterrains pour traverser. Ils tombent sur une genre de salle de classe désaffectée qui visiblement était un genre de bunker post-apo, genre post-pandémie de zombies, mais où... qu'est-il arrivé aux gens qui étaient dans ce bunker ? Peut-être sont-ils devenus des petits zombies gymnastes de 9 ans qui font des petits... petit pont redressé là comme ça dans des wagons où il y a Ellie coincée dedans et là c'est Big No, des petits cliqueurs là, c'est non, cette petite cliqueuse c'est non, mais voilà, ils vont dans les souterrains et déjà je suis là en mode pourquoi, ça n'a pas de sens, je suis désolée, ça n'a pas de sens, je ne comprends pas pourquoi ils y vont, parce que Henry il dit à Joël on va dans les souterrains, tous les zombies sont sous terre, mais TKT ça va, et Joël il lui dit bah comment tu sais, il fait ah, tu connais, Joël, il fait, ok. Je suis là, bah non. Bah déjà, non. Tu vois. Mais déjà, dans l'épisode 4, j'avais pas compris pourquoi ils allaient en ville, donc j'étais là, ok. Maybe, si tu veux. Après, ils vont dans les souterrains, et ça commence à papoter et tout, et Joël, il fait, eh, peut-être TG? Peut-être on n'est pas sorti, on n'a pas le cul sorti des ronces, et j'étais là, bah oui, merci. Après, il dit à Ellie, prends ton gun et tout, je fais, mais de ouf, hein, bon, voilà, quand même 14 ans, mais d'accord. Bon. Apparemment, elle sait s'en servir, on l'a appris dans l'épisode précédent, donc d'accord. Après, ils arrivent dans la salle de classe désaffectée, ils disent, ouais, ok, on va se poser là, on va mettre de la lumière, on va bouffer des trucs et tout. Je suis là, bah, déjà, vous êtes, enfin, je sais pas, vous vérifiez pas l'intégralité de votre environnement, vous êtes quand même extrêmement détente, et on rappelle que certes, Ellie, elle est immunisée à la morsure des zombies, mais pas du tout à se faire absolument déchiqueter par une horde de zombies, par exemple. Donc bon. Ils sont dans la zone, un peu école, là. Ils parlent tranquille et tout. Ils baissent pas vraiment le ton. Ils ont toutes les lumières allumées. Je suis là de ouf. Oh, d'accord. Henri décide de raconter sa vie à Joël, ce qui est un bon choix de vie. J'aurais fait pareil à sa place. C'est généralement ce qui te permet de rester vivant, mais pas dans une série, parce que dans une série, évidemment, dès que tu racontes ta vie, c'est que tu vas mourir assez vite. Ou comme dirait Ned Stark, on parlera de ta mère quand je reviens, Jon Snow. Ne t'inquiète pas, à bientôt. Donc c'était un petit peu cramé qu'il allait mourir, mais honnêtement j'étais pas sûre que Sam allait mourir aussi. Je me suis dit peut-être Henry va mourir et pas Sam, ou peut-être Sam il va mourir et pas Henry, ce qui est dans ma tête pire, parce que du coup Sam il a fait tout ça pour rien, mais encore plus. Enfin du coup Henry il a fait tout ça pour rien, mais encore plus. Bref, du coup j'étais là, bon, c'est quand même un speech qui pue la défaite, et Joël décide de ne pas répondre à l'intégralité du speech de Henry et de dire... Ok, bah maintenant on y va. Je suis là, pourquoi ? En fait, enfin, inventer un élément narratif, tu vois, il est là, on est là depuis assez de temps, et je suis là, mes sources, de ouf, enfin, je veux bien que c'est un jeu vidéo, mais quand même, aidez-moi à trouver des raisons d'avancer dans l'intrigue en tant que personne qui regarde une série télé, et pas un jeu vidéo. Et après, ils avancent. En vrai, je comprends. Ok, dites-moi le chat, et notamment les gamers et les gameuses du jeu, quand ils arrivent post-périph, pourquoi ils marchent au milieu de la route ? Littéralement, pourquoi ils marchent pas dans n'importe laquelle des pelouses sur le Teco ? Pourquoi ils marchent au putain de milieu de la route ? Alors certes, ils disent que ça a été... Non, même pas, ils le disent bien avant, parce que là, c'est pas le cas, que ça a été dégagé par des genres de... On les verra plus tard, des camions avec des brise-glaces ou je sais pas quoi devant. Là, c'est pas le cas. Ils marchent au milieu de la route, comme des connards avec leurs lampes torches. Je suis là... Mais en fait... On a décidé que les infectés, c'est vraiment pas un probe, déjà de base. Parce que là, on a Jean-Michel Henry qui a dit « Oui, je me présente, je m'appelle Henry, les infectés sont sous la terre, source WhatsApp. » Joël, il a fait « Bof, mais d'accord. » Et là, ils arrivent post-périph et ils marchent comme ça de nuit avec leur lampe torche et ils parlent. Et Joël, il fait vaguement « Chut !» Tu sais, en mode bibliothécaire, genre « Chut !» Je suis là, mais de où ?« Chut !» C'est des zombies, c'est pas « Chut !» Les cliqueurs, là, dans le musée, ça fait 2 épisodes. On n'est pas cons, on n'a pas oublié, tu vois. C'était hyper tendu. Et là, il est là. Il n'y a pas d'infecté, il n'y a pas de cliqueur. Sachant que dans l'épisode 4, à un moment, ils sont dans la forêt avec Ellie. Où déjà, on avait soulevé pourquoi ils dorment pas dans la vago. Mais d'accord. Peut-être dans la vago, ça sent les proutes. Ok. Ils dorment dans la clairière, la belle étoile. Et Joël, il dit, on est un peu trop... Enfin, on est trop isolés pour les infecter. Genre, il y a... too remote, donc trop éloigné de la civilisation pour les infecter. Donc je suis là, ok, bon, bah, disons le mycélium du cordyceps des zombies, il est que là où il y a des humains, donc il est que en ville, ça se tient. Donc dans la nature, a priori, si t'es assez loin de là où il y avait des humains et que tu marches pas sur le mauvais bout de champignon, ça se tient. Mais sur une fucking allée résidentielle de banlieue pavillonnaire, bah peut-être marche pas au milieu de la route. Ah, pardon, il y a Matou qui dit les lampes torches sont éteintes. Ça change tout. Pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Ils parlent et tout. Ils parlent de fou. Isua dit, ils sont absolument persuadés qu'il y a personne pour moi. Et je suis là, bah oui, mais c'est bien d'être persuadé, mais c'est quand même mieux de vérifier, non ? Parce que non, en plus, tout le thème de l'épisode précédent, c'était Joël qui disait à Ellie, le pire qu'on a à craindre, c'est pas les infectés. Parce que même s'il n'y a pas d'infectés, par exemple, dans les endroits reculés, eh ben, il y a des humains. Et les humains... Ils vont, et il dit, ah bah, il y a des humains, et Ellie, elle est là, ils vont faire quoi, nous kidnapper? Et Joël, il est là, pire. Et Ellie, elle fait, ok, d'accord. Donc, en fait, si vous avez peur des humains, bah, marchez pas en parlant de trucs, enfin, juste, soyez fucking discret. Attends, get it. Bon. Voulez-vous parler du sniper? Moi, bof. Je n'y crois pas. Le sniper, les canards. Ça va que c'est une personne de 80 16 ans avec une vue, ma foi, assez voilée, qui du coup rate l'intégralité des quatre personnes, y compris Joël qui se met à cavaler d'un côté, Henri et Sam qui essayent de s'esquiver, Ellie qui est là, moi je suis juste la dame de l'accueil. Et je sais que dans, apparemment, et on arrive à, c'est vraiment une séquence jeu vidéo. Hello Marty! Welcome! On est à la séquence, ouais, je suis blasée, Matt, désolé, mais je suis blasée de cette, enfin, je vous ai dit, ces deux épisodes, j'étais là, Et on peut pas scorer à tous les coups, mais là, on commence à être dans le ventre mou, et surtout, je veux bien suspendre mon incrédulité, machin, là, à fond, mais faudrait pas me prendre pour un jambon non plus. Et là, je suis un peu en Serrano, tu vois. Je suis en 18 mois d'affinage, j'ai pas envie de ça dans la vie. Parce que je suis là-bas, je me fais quand même prendre pour une charcuterie. Et j'ai reçu dans le débrief précédent mon ami Mathias Jambon, donc c'était à ce moment-là qu'il fallait... Non, je vais pas faire des jeux de mots sur son de famille, j'en ai déjà trop fait. Je vais pas lui infliger ça. Je t'aime, Mathias. Bref. Izua dit, épisode 4, j'ai mes bof, épisode 5, je suis joyeusement un jambon. Non, mais soyez des jambons, soyez, enfin, si ça vous a plu, more power to you. Rappelons que 100% des œuvres télévisuelles ou audiovisuelles en général que je consomme, j'ai envie de les aimer. Vraiment, je ne me fais pas chier à regarder chaque semaine, chaque lundi, généralement à 7h30 du matin, un épisode d'une série que je n'ai pas envie de regarder et dont je ne pense rien de bien et sur laquelle je n'ai pas d'espoir. Moi, je veux que The Last of Us, ça soit bien. Je regardais quand même 3 saisons et demie de Westworld. J'ai regardé toutes les saisons de Lost avec zéro regret. Je me suis forcée à regarder 6 épisodes de The Leftovers alors que je ne suis jamais rentrée dedans. On a taffé. On sait ce que c'est une série bien mais avec des épisodes pas top. Et on sait ce que c'est une série pas bien avec quelques épisodes qui sauvent le lot. The Last of Us était parti sur une série bien avec des petits ventres mous. Là, on commence à arriver à alright, on a eu 3 épisodes bien. On a 2 épisodes bif-bof. On va voir la suite, mais on espère qu'on va revenir sur un peu du bien. Et dans le débrief précédent, on avait parlé avec Mathias Jambon du fait que c'est un peu intéressant si ton meilleur épisode, qui est donc, selon Mathias et moi, l'épisode 3 sur Bill et Frank, c'est déjà 100% une histoire qui est pas dans le jeu. Sans ça, ça me dérange pas, c'est cool de rajouter des trucs. Mais surtout, c'est une histoire qui a rien à voir, finalement. Enfin, tu pourrais raconter cette histoire limite partout. Ça pourrait être un téléfilm d'une heure et demie parce que ce flashback dure plus d'une heure. Ça pourrait être un téléfilm moyen métrage, une heure dix, sur un couple qui se rencontre, un couple d'hommes qui se rencontre un peu, voilà, à une période un peu âgée de leur vie et qui tous les oppose, mais l'amour les unit et l'un des deux tombe malade et en fait il meurt à la fin, quoi. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des zombies pour cette histoire-là. Et d'ailleurs, dans cet épisode, il n'y a pas de zombies. Et c'est le meilleur épisode pour l'instant. Ah! Peut-être il y a un épisode où on verra le frère de Joël, Tommy. C'est vrai qu'on l'a toujours pas revu. Et en vrai, j'ai trop hâte de savoir ce qui lui est arrivé. Mais rappelons que j'avais prédit que je suis pas sûre qu'on va le revoir. Donc ne spoilez pas. Mais en vrai, j'ai un peu peur du côté... et en même temps, c'est à la fois très réaliste et très dramatique de... on suit un but pendant tout l'épisode, et enfin pendant toute la saison. Et quand on arrive, c'est déjà trop tard, quoi. Joël, il va arriver et Tommy, il sera mort. Et peut-être même, il sera mort comme un connard, genre... petite fracture du genou, mort de soif, sur un bout de colline, et il sera là, yes. Bah, la vie est une chaîne, et à la fin, on meurt, quoi. Donc, voilà. Fun times ou pas dans The Last of Us? Donc oui, l'aspect jeu vidéo, j'étais pas fan. Est-ce qu'il faut que je lise le chat? Je pense qu'il faut que je lise le chat parce que je vous aime, déjà. Et parce que du coup, je suis pas au top. Ok. C'est bon, j'ai rattrapé le chat. Il y a Hey qui dit « Ce fichu sniper m'a tué plein de fois dans le jeu. » Oui, je sais que dans le jeu, du coup, le sniper dans la tour qui canarde Henri, Sam, Ellie et Joël, apparemment, c'est un gros moment à passer et que partir sur la gauche, c'est le bon chemin à prendre. Et Joël, dans la série, part sur la gauche. Ça fait partie des petits clins d'œil à... Dans le jeu, vous savez, vous avez galéré. Je trouve qu'en termes de réel, on commence... Enfin... J'ai pas toujours quelque chose contre les moments où ils font de la réal jeu vidéo, notamment quand ils sont dans les voitures et que, bah, comme dans l'épisode 1, il y a la fameuse scène où ils essayent de s'échapper de Austin, Texas, au tout début de la pandémie avec Joël, Ellie et Tommy, et où on est dans le pick-up et où ça part en couille, ça tourne mal, l'avion il tombe et tout. Et dans l'épisode 4, quand la voiture de Bill conduite par Joël et Ellie, enfin par Joël avec Ellie sur le siège passager, se fait piéger dans la station service à Kansas City. C'était très jeu vidéo aussi. Pourquoi pas? Est-ce que c'est la façon la plus intéressante de filmer ces scènes? I don't know. Marty dit ça faisait très The Walking Dead ces deux derniers épisodes. Trois petits points. Oui, je suis un peu d'accord. Et c'est peu un compliment. Mais je vois qu'il y a Cébulo qui dit j'ai bien aimé. On en attend juste beaucoup trop. Le fait de ne pas binger, ça change tout. Alors moi, j'adore le rythme hebdo. J'adore le non-binge. Parce que déjà, ça me permet de faire des débriefs avec vous toutes les semaines. Et aussi, en fait, de réfléchir, de digérer, d'avoir des gens avec qui parler, d'aller lire Reddit, d'aller écouter des podcasts, etc. Pas de juste en créer et en produire. Et du coup, d'arriver à l'épisode d'après avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de richesse intellectuelle que je l'aurais fait toute seule dans mon coin. Et encore moins si je bingeais et que du coup, je pouvais tout dévorer en un week-end et finir en petite... indigestion de... Ouais, j'ai tout bouffé, mais du coup, je me rappelle de la moitié. Il y avait un moment où je mangeais des pâtes, il y avait un moment où je gratouillais mon chat. Enfin, tu vois, c'est... T'es pas autant impliqué. Moi, j'adore le rythme hebdo. Je pense que, pour la plupart des séries, le binge is a mistake. Il y a quelques séries seulement qui se prêtent bien au binge, et je ne vais pas les lister ici, car je n'ai pas réfléchi plus loin à cet argument, mais je pense qu'il y a des séries pour qui c'est bien. Mais vraiment, genre une minorité. Je tiens grâce à Daddy Pedro Pascal, mais c'est ventre mou, ouin, dit Marietta. Ouais, c'est un peu ventre mou. Mais Matt dit, c'était mon préf celui-là. Ayant joué au jeu, c'était avant que j'étais plutôt blasé, sauf l'épisode 3, donc celui sur Bill et Frank, qui apportait du neuf. Bah là, apparemment, ça apporte du neuf aussi quand même entre la relation et entre... Enfin, au niveau de la relation entre Henry et Sam, et notamment de Sam qui est sourd. Est-ce que, du coup, les joueurs et joueuses du jeu, est-ce qu'il y a d'autres différences majeures dans cette... Donc, je sais que les différences majeures entre le jeu vidéo et cet épisode et celui d'avant, c'est dans le jeu vidéo, Sam n'est pas sourd ni muet, Kathleen n'existe pas, donc il n'y a pas de visage pour la rébellion de Kansas City. Du coup, Henry et Sam, c'est juste des gens qui veulent s'évader de Kansas City parce qu'ils sont pris en charge, enfin pris en cible, pardon, par la rébellion, et ils vont mener Joël et Ellie à s'évader de Kansas City, et à ce moment-là, il y a les infectés souterrains qui pop comme dans la série, et qui du coup, est-ce que dans le jeu vidéo aussi, il meurt de Sam et Henry le tue et Joël et Ellie assistent à ça, ou est-ce que c'est par exemple le joueur ou la joueuse qui doit tuer Sam, ce qui est quand même un peu fun, est-ce que on doit tenir en joue Henry, comment ça se passe dans le jeu, dites-nous. SVP. Fabi, coucou Fabi. Fabi dit, j'ai bien aimé cet épisode parce qu'on avance, on clôture des histoires comme Kathleen qui m'intéressait bof. Les persos et l'investissement émotionnel étaient cool. Il y a des trous dans la raquette, mais je te trouve dur. Écoute, peut-être je suis un peu dur. Je peux pas passer un mauvais moment. Ok, j'ai quand même bien aimé regarder cet épisode et j'aime toujours Pedro Pascal et Ellie. Leur duo fonctionne toujours très bien. Henry et Sam, je trouvais vraiment que les acteurs ont fait un super boulot et je me suis... Et pour le coup, je vais pas nier le fait d'avoir réussi à m'attacher émotionnellement à des persos que j'ai vus, je pense, en tout 20 minutes. Ils ont pas vraiment beaucoup de temps d'écran et encore moins pour poser leurs relations et poser les enjeux. Et je me suis quand même attachée et j'étais hyper triste, même si je l'ai vu venir quand Sam il a été mordu. Et j'étais hyper triste quand Henry il se tue, parce qu'en plus j'avais pas tous les détails. Genre, je savais qu'elle, on sait que c'est Joël et Ellie, donc de base, quand ils rondent des gens, j'avoue que j'ai un peu le prisme de probablement ça va pas durer très longtemps. Mais je les aimais bien, ces deux-là. Et Joël il dit, ouais, ok, peut-être qu'on peut avancer ensemble. Et j'étais là, ok, peut-être ils vont faire une ville de plus ensemble. Et après, dès qu'il y a le sniper, j'ai fait, ah non, probablement pas. Donc j'étais, en vrai, j'étais impliquée émotionnellement, mais. En fait, tu dis ça clôture un arc dont on s'en fout comme celui de Kathleen, et je suis là, oui, mais d'accord, mais cet arc qui dure depuis genre... Enfin, on l'a eu 10 minutes dans l'épisode d'avant, ou 20 minutes, peut-être j'exagère, et 20 minutes dans cet épisode-là, et en fait, c'est un peu trop court. Paradoxalement, genre, ils arrivent à m'accrocher à une relation émotionnelle en pas grand-chose avec Henry et Sam. Je pense que Kathleen, elle a autant ou plus de temps d'écran, et c'est juste, pour moi, c'est trop brouillon. Parce que à la fois ils amènent le fait qu'à Kansas City, Fedra, c'est des nazis, le peuple s'est soulevé, il a renversé Fedra, mais aussi un peu torturé, donc le peuple n'est pas si gentil. Il y a une équipe qui est menée par Kathleen. C'est qui Kathleen? C'est cette meuf-là. Elle était là, oh, ok, elle a pas du tout une dégaine de meneuse d'homme, mais elle est là, ouais, je suis meneuse d'homme quand même. Tu fais, ok, c'est une meneuse d'hommes. Elle tue des gens, naninana, y a pas de souci, parce que elle cherche Henri et Sam qui ont tué son frère. Et elle en parle à Perry. Et t'es là, ok, donc il y a Kathleen, il y a Perry, il y a Henri et Sam qui ont tué son frère, machin. Enfin, qui ont livré son frère à Fedra, mais il y a plus Fedra. Après, tu rencontres Henri et Sam, t'es là, ok, eux, c'est Henri et Sam. Et du coup, Henri, il dit, bah, moi, j'ai fait livrer Michael, le frère de Kathleen, à Fedra, mais après, ils ont tué Fedra, et après, ils ont, enfin, d'abord, Fedra a tué Michael, et après, ils ont tué Fedra, et maintenant, ils me cherchent moi, parce que c'est à cause de moi, si Michael, il a été tué par Fedra, et je suis là, eh, hey, mais peut-être, let it go. Peut-être juste faites votre vie, tu vois, I don't know. Genre, pourquoi se prendre autant la tête, genre, refaites votre vie à Kansas City, et en même temps, ça va peut-être vous paraître tragique ce que je dis, mais je pense que mon truc préféré de cet épisode, c'est que, à la fin, c'est pareil. Peu importe ce que Henri et Sam, ils ont fait, ce que Joël et Ellie, ils ont fait, ce que Kathleen et Perry, ils ont fait, à la fin, il y avait un trou dans le sol, et les infectés, ils sortent. Et apparemment, à Kansas City, ils n'ont pas eu à gérer les infectés depuis 10 ans, donc ils sont en mode... Alors, pas Kumbaya, hein, c'est pas... vas-y, Flower Power, on fume des joints, mais... En tout cas, sur les infectés, ils sont détentes. Et du coup, bah, c'est clair, la ville, elle va se faire éclater, là. Donc, je suis là, bah, tu sais quoi? Tu viens pas, tu fais la rébellion, tu la fais pas, tu meurs pas. À la fin, c'est tragique, mais c'est pareil. Et, je trouve, c'est intéressant. Ce truc de, des fois, c'est vain. Des fois, en fait, mais ça rentre aussi dans, si chaque épisode est un potentiel spin-off, où on voit juste un petit bout d'une autre vie, dans l'invasion de zombies, et bah, cet épisode-là, c'est un petit spin-off qui a une fin qui est... Et à la fin, les zombies ont gagné. Et je suis là, bah c'est nul, heureusement qu'on n'a pas fait une série là-dessus. Et la série est là, bah ouais, je sais, c'est pour ça que je n'ai pas fait une série là-dessus. Mais c'est cool quand même de vous raconter qu'à la fin, les zombies, des fois, ils gagnent. Et maintenant, on va parler des zombies. Mais avant, je vais lire le chat, parce que vous êtes intéressante et intéressant, passionnant et passionnante, mais aussi, je pense, d'une douceur extrême. Voilà, c'est mon avis sur vous. Je pense que vous sentez un peu le coton propre, le linge frais, et une pointe de fleur d'oranger. Vous voyez, dans Cancel, etc., dans Harry Potter, il y a une potion, c'est la potion d'amour, et ça te fait... Elle a l'odeur des êtres que tu aimes. Et du coup, c'est un peu un indice pour savoir qui tu aimes. Genre, par exemple, Hermione, quand elle la renifle, elle a l'odeur un peu de Ron Weasley, parce qu'elle avait Ron Weasley, son amoureux. Et j'ai toujours trouvé ça hyper chou. Et du coup, dans ma tête, vous avez l'odeur de coton propre, de linge frais et un petit peu de fleur d'oranger parce que j'aime beaucoup la fleur d'oranger. Voilà. Alors, on va remonter à quelque chose de beaucoup moins mignon, hein, qui est qu'est-ce qui se passe dans le jeu vidéo pour Sam et Henri et la fin de cet épisode. Alors, après 5 épisodes de The Last of Us, dit Eden Raquen, je préfère largement les premiers épisodes de The Walking Dead saison 1. Question d'époque, c'était plus surprenant le côté survival zombie en série. C'est marrant ce côté question d'époque parce que Walking Dead était un peu précurseur dans son temps en termes de série de zombies, mais le comics existait déjà depuis longtemps. On avait des œuvres au ciné comme 28 jours plus tard, qui est une de mes œuvres de zombies préférées, qui existait déjà depuis un moment. Et du coup, tout s'est nourri mutuellement. Et je pense que le jeu vidéo The Last of Us qui est sorti du coup en 2013 s'est nourri bien évidemment de The Walking Dead et de ok, qu'est-ce qu'on peut faire de différent sur les zombies, qu'est-ce qu'on peut faire pour retravailler ce thème. Et du coup, tout est un cercle. Ah, ok, donc dans le jeu vidéo, si j'ai bien compris, Ellie s'endort, Sam l'attaque au réveil, donc bah comme là, elle s'endort et elle se réveille et elle va le... En fait, c'est intéressant parce que dans la série, Ellie, elle se réveille, elle voit Sam dodo et elle l'appelle. Et il répond pas. Et là, elle se dit, ah bah oui, je suis con, il est sourd. Et du coup, elle va le secouer. Et là, elle se rend compte que il est champi. Donc ça veut dire qu'il l'a pas entendu. Donc ça veut dire que le champi a pas guéri sa surdité. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi qui aime bien le world building et le lore, ça veut dire beaucoup, parce que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait ce champi sur les gens. Parce que par exemple, la mamie du début, du premier épisode, rappelez-vous, la mamie en full Shyamalan, bah elle a quand même pu bien se mettre à cavaler alors qu'elle était en full fauteuil roulant, juste grâce au champignon par lequel elle a été contaminée quelques... 12 heures avant, quoi. Max, grand max 12 heures, je dirais, ou 24 heures à la limite. Mais par contre, le gamin, ça a pas guéri sa surdité. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a des trucs contre lesquels les champis ne peuvent rien. Et que ça ne, par contre, ça conforte mon hypothèse de je ne comprends pas pourquoi les infectés sont si durs à tuer dans cet univers, parce que vraiment, je suis là, ça commence à casser l'immersion de je n'arrive pas à comprendre que les gens survivent dans ce monde. Et là encore moins avec l'invasion de zombies souterrains et le blotter, on va en parler. Mais du coup, j'ai vraiment, je commence à avoir du mal à comprendre que les gens ont survécu à la limite. Donc, a priori, il y a plusieurs stages. Il y a les runners, qui sont les premiers infectés, bah, comme la mamie, ceux qui courent. Il y a les, je sais plus quoi. Il y a les clickers, qui sont, bah, ceux qu'on a vus dans le musée avec la tête champignon, qui sont aveugles, mais qui se repèrent au bruit. Et il y a les blotters, le gros bonhomme, qu'on a vu, dans cet épisode. Et il y en a un, voilà, le deuxième, j'ai oublié ce que c'était. Mais bon, c'est un mythe zombie, quoi. Et je suis là déjà, bon, c'est très jeu vidéo d'avoir des types de zombies. Et aussi, genre, bah, ils sont, genre, les clickers, ils sont hyper forts, quoi. Enfin, tu devrais, littéralement, il y a plus du, I don't get it, il y a plus d'humanité, parce qu'en plus, ce qu'ils expliquent, c'est que, et c'est pour ça qu'à la fin, ils enterrent les corps de Sam et Henry, et en même temps, ça n'a aucun putain de sens, parce qu'ils les enterrent dans la terre où vivent quoi? Les champignons, bref. Ils les enterrent parce que l'idée, c'est que les corps peuvent être récupérés et utilisés par le mycélium du cordyceps, donc la, en gros le champi wifi, le champifi, on va l'appeler comme ça. Et du coup, le champifi, il peut se connecter, nonobstant une prise Ethernet, à tout corps et en faire désinfecter et donc des nouveaux zombies. Et c'est ça qui se passait à Boston où... Quand ils regardaient cette fameuse bande de soleil où il y avait plein de zombies qui roulaient là au soleil et Tess et Ellie parlaient, Tess avait dit à Ellie « C'est comme ça qu'il y a de plus en plus d'infectés dans les villes, c'est parce que ils s'en prennent aux cadavres petit à petit, quoi. » Donc je suis là « Ok, bah vous devriez pas vraiment avoir survécu 20 ans, mais d'accord. I guess, ça va marcher. » Ouais, Omelette 12 dit « Perso, je suis encore sceptique sur le fonctionnement des infectés en horde, ils sont beaucoup trop puissants. Toujours !» C'est clair. Ah, dans le jeu, Ellie n'essaye pas de soigner Sam qui lui dit pas qu'il a été mordu. Oui, du coup, il y a ce truc qu'ils ont ajouté dans la série, c'est que, évidemment, Ellie, a priori, a un petit peu immunisé, quoi, contre tout ce qui est cordyceps, et j'ai trouvé ça crève-cœur et trop chou dans l'épisode, quand Sam, il lui dit... Donc le petit Sam lui écrit sur son ardoise est-ce que enfin d'abord il lui écrit est-ce que t'as peur et elle lui dit j'ai tout le temps peur et après elle rajoute des scorpions et il est là est-ce qu'on fait des vannes maintenant ou est-ce qu'on parle sérieusement et elle est là ok peut-être on parle sérieusement et après il lui dit est-ce que quand tu deviens un monstre donc quand tu te transformes en zombie est-ce que il y a est-ce que c'est quand même toi dedans et après, il lui montre qu'il a été mordu. Et là, Ellie, dans une scène que je trouve absolument candide et extrêmement émouvante, met son sang à elle dans sa plaie à lui en disant « Non, mais moi, je suis guérie. Enfin, en fait, je suis immunisée. T'inquiète, mon sang est guéri. » Et au début, j'étais là bah, « C'est complètement con. C'est pas comme ça que ça marche, les vaccins, Covid, etc. » Et après, j'étais là « Mais c'est Ellie. Elle est née dans ce monde-là, en fait. Elle sait pas comment ça marche, les vaccins. Elle a vu Joël siphonner un réservoir. Elle était en mode... Amazing, la mécanique des fluides, incroyable! Genre, elle sait vraiment pas grand chose de la vie parce que, genre, elle a été à l'orphelinat Fedra où on lui apprend à tenir un gun mal. Donc, je pense qu'elle sait pas comment ça marche les vaccins et les médicaments. On lui a dit dans ton sang, il y a un truc. Et peut-être qu'elle se dit, bah, vas-y, je vais mettre mon sang dans son sang à lui et au pire, ça fera rien de mal. Ce qui est vrai, ça fait, c'est pas pire. Eh! C'est pas pire. Mais c'est vraiment pas mieux. Par contre, on va en parler. Donnez-moi, ok, challenge sur le chat, donnez-moi une bonne raison pour laquelle Ellie n'informe pas Joël que le gamin a été mordu. On est à Tess plus 72 heures max, je pense. La réponse, bah, Joël l'aurait buté, n'est pas une réponse valide, car oui. C'est la vie. Kids die, comme dit Kathleen. Et juste genre, pourquoi elle le dit pas? Genre, limite, tu donnes l'info, tu vois. Ok, justifiez-moi ça dans le chat pendant ce temps. Je vous lis, mais sachez qu'il va falloir se lever tôt pour me convaincre. Ah, Omelette Douce dit, dans le jeu, on arrive à s'enfuir de la ville avec Henry et Sam. On croit que l'arc de Pittsburgh, parce que dans le jeu, c'est Pittsburgh et pas Kansas City, ce qui apparemment est géographiquement plus logique, donc je sais pas pourquoi ils ont changé. Peut-être parce que Kansas City, c'était plus simple de filmer là-bas. Donc on croit que l'arc est fini et qu'on s'est trouvé des compagnons de voyage. Joël a un pote avec qui parler de moto, il évoque un peu Tommy avec Henri. Ellie peut créer une complicité avec un autre enfant. On a quelques scènes d'apaisement entre ces quatre personnages. On nous laisse croire quelques instants qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Et c'est là que Sam se fait mordre. Ok, donc c'est pas genre il révèle qu'il a été mordu avant. C'est là qu'il se fait mordre, genre ils sortent de la ville et mais ouais ok c'est en vrai dans la série ils sortent de la ville, genre ils ont passé les tunnels et le périph et c'est là où il y a l'invasion de zombies et c'est là où du coup Sam se fait mordre pendant qu'ils sont en train de ramper un peu sous une voiture avec Henri. Ok, votre réponse sur Ellie, c'est elle pense vraiment l'avoir soignée, dit Meluma, ce qui est possible et ce qui est tragique aussi. C'est elle pense vraiment l'avoir soignée. Womlet 12 dit c'est une jolie scène, Ellie qui essaye de soigner Sam avec son sang, c'est un rajout de la série. Dans le jeu, Sam ne se confie pas à elle sur le fait qu'il a été mordu. Cébulo dit elle pensait que ça marcherait, que c'était son nouveau pote. Izua dit pour moi c'est genre va prévenir Joël, tu crois vraiment que c'est bon, on peut dodo. Et oui, il y a aussi des interrogations sur ok, qu'elle croit peut-être soit l'avoir guéri, soit pouvoir contenir l'infection, d'accord, mais elle dort avec lui porte fermée comme si de rien n'était. C'est beaucoup trop, quoi. Bon, Mini-Jet dit, elle a 14 ans factuellement, mais 10 ans en éducation scientifique, t'es peut-être généreuse même. Évidemment qu'elle était persuadée que son sang le guérirait. Ouais, mais mon gars, t'es persuadée, tu check quand même, non? Elle a vu des... Littéralement, elle a vu Kathleen se faire bouffer par un gamin, par une gamine infectée, dans genre il y a 2 heures. Le gamin, il te montre qu'il est infecté, t'es là... Non, mais peut-être ça, il va passer la nuit à pas de souce, mais c'est quoi, je vais... Tu vois, je vais dormir genre d'un œil, quoi. Ah oui, c'est pour le rassurer, mais ça colle pas avec le fait qu'elle n'informe pas les autres. Oui, oui, qu'elle le rassure et qu'elle lui dise « T'inquiète, tout va bien aller, je mets mon sang. » Et je pense, en plus, sincèrement qu'elle y croit, encore une fois, c'est tragique. Is ok, mais qu'elle informe pas Joël et Henri, je suis là. Bof. Bon, on va parler de l'invasion de zombies, parce que du coup, on a sauté à la fin de... Alors, la fin de Henri et Sam is very tragic. Maybe on refera un point après dessus, si vous voulez. Mais il faut qu'on parle... Il faut qu'on parle de ce trou dans le sol avec tous les zombies dedans, parce que c'est le moment où j'ai fait « Ah bah voilà, c'est le moment où je m'en bats les couilles en fait. C'est le moment où c'est un jeu vidéo, c'est le moment où j'y crois pas, déjà. C'est le moment où ils étaient où ?» Enfin, littéralement, c'est quoi ce sinkhole qui tombe pile au bon moment en plus, alors que ça vibrait dans la ville à 10 bornes de là, dans l'épisode d'avant. Pourquoi ils sont tous là? Pourquoi il y en a un gros? Bah, Izua dit j'ai bien aimé l'invasion zombie, mais j'ai pas détesté, tu vois, genre j'ai pas passé un mauvais moment. C'est toujours bien de voir des zombies qui escaladent un trou et qui sautent sur des gens et qui se meuvent de façon un peu rigolote. Et genre, quand il y a World War Z à la télé, je regarde jusqu'à ce que les zombies escaladent le mur de Jérusalem parce que c'est un petit peu sympa à regarder. Mais en vrai, je trouve que y a la série, elle est un peu... bâtarde, où elle est à la fois sur du, ce que j'appellerais du high drama, donc de la série dramatique vraiment exigeante et sérieuse, notamment avec l'épisode sur Bill et Frank qui, once again, pourrait être limite un moyen métrage nommé à Sundance, et qui, 2 épisodes après, te fait sortir un méga monsieur Maury du trou créé par un camion en feu dans le sol, et je suis là, c'est un peu débile, non? C'est un peu débile ce qui se passe. C'est un peu Zombieland, quoi. C'est... Ouais, il y a Matt Mutmut qui dit « J'ai cru être dans Stranger Things ». Pour moi, on change de registre. C'est un Demogorgon, effectivement, comme dans Stranger Things. Bon, a priori, le bail de cet ennemi qui s'appelle le Bloater dans le jeu vidéo, c'est que à la fois, il est recouvert intégralement d'armure mycologue, donc d'armure de boue de... En gros, il a un champignon qui a créé des morceaux d'armure sur lui. Bon, pourquoi pas, à la limite. Et que en plus, dans le jeu vidéo, il crache des nuages de spores aux gens. Dans le jeu vidéo, c'est par les spores des champignons que l'épidémie se répand. Et du coup, il est doublement dangereux parce qu'il est extrêmement résistant de par son armure naturelle de champignons. Et aussi parce qu'il crache des nuages de spores à la gueule des gens et que du coup, il répand la pandémie. Bon. C'est compliqué d'être là, impliqué émotionnellement, dans une série avec, en plus, qui, depuis l'épisode précédent, voire aussi celui d'avant, en fait, quasiment. Et plutôt axé sur... on va parler des humains et du risque que les humains posent pour les humains et de comment les humains marchent ensemble et de régler le problème entre les humains en disant « Lol, il y a un méga zombie !» Je suis là, mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous avez bien aimé... Ok, je demande votre avis. Est-ce que vous avez bien aimé cette invasion de zombies qui sort du souterrain? Est-ce que vous l'aviez vu venir? En partie parce que dans l'épisode précédent, il y avait déjà ce plan sur ça palpite sous le béton. Et qu'est-ce que vous avez pensé notamment de cette nouvelle race de zombies qu'on découvre, qui s'appelle du coup dans le jeu vidéo le Bloater, et qui est beaucoup plus mastoc. Alors, pendant que vous répondez, un point intéressant que j'ai trouvé, c'est que j'ai appris un truc de fou. Parce que j'écoutais, donc vous le savez, j'écoute des podcasts anglophones de nerds sur toutes les séries que je regarde, et il y a notamment ma podcasteuse préf, Joanna Robinson, qui fait des débriefs de The Last of Us, évidemment, et qui a jamais joué aux jeux vidéo, et elle en fait des débriefs avec Mallory Rubin, qui est aussi une podcasteuse et critique de séries américaines, qui s'est mise aux jeux vidéo et qui, à chaque fois, joue à la portion de jeux vidéo qui l'amène à la fin de cet épisode-là. Donc là, elle s'est tapé tout le sniper, le machin et tout, elle était au bout de sa vie, parce qu'elle joue pas aux jeux vidéo dans sa vie, en général, et encore moins au triple A action-aventure, donc elle est là en mode « je vise mal », le bloater c'était horrible et tout, bref, c'était galère. Et j'ai appris dans ce podcast que, en gros, il y a quelqu'un qui est hyper connu pour faire ce qu'on appelle la motion capture, donc avoir des capteurs sur son corps et réussir à faire des apparences de personnages en 3D dans les films, genre Avatar par exemple. Et qu'il y a un gars qui notamment est connu pour avoir fait SVP, la cape de Doctor Strange. Donc Doctor Strange dans le Marvel Cinematic Universe, il a une cape qui vit toute seule et qui se balade et tout. Et moi j'ai toujours cru que c'était genre juste des effets spéciaux, mais non! C'est un gars à la base qui s'est baladé avec la cape et après ils ont fait de la mocap sur lui. De la mocap? Vous l'avez? Incroyable. Bref. Et apparemment c'est lui qui a fait, qui a beaucoup travaillé sur le design désinfecté dans The Last of Us, qui, on en avait parlé dans le tout premier épisode, je crois, dans le tout premier débrief, c'est du design latex et costume pour une bonne partie. C'est-à-dire que généralement c'est des acteurs avec des costumes et du latex qui jouent un truc et on va l'amplifier grâce aux effets spéciaux. Notamment, par exemple, dans cet épisode, le deuxième zombie le plus marquant, c'est la petite gamine gymnaste acrobate là qui fait des ponts et des roues en étant plutôt cliqueur, puisqu'elle a le cerveau fendu en deux, et qui est absolument terrifiante et qui finit par goumer Kathleen en faisant un saut de l'ange en mode Linkin Park sur scène depuis un genre de petit fronton, là. Donc cette gamine, c'est une vraie actrice de 9-10 ans gymnaste, mais qui a été formée comme plein d'autres, et notamment la personne qui joue le gros zombie, donc le bloater, par ce gars-là qui est expert en motion capture et qui est notamment qui a fait la cape de Doctor Strange et qui a beaucoup bossé sur les zombies dans The Last of Us. Et Joanna Robinson disait, en gros, en motion capture, le number one, c'est Andy Serkis, qui a notamment fait Gollum et qui a apporté beaucoup de crédibilité au boulot d'être un acteur motion capture pour le cinéma, dans le sens où pendant longtemps c'était décrié parce que du coup t'es pas vraiment un acteur, t'as juste des capteurs, c'est pas toi, c'est pas ta tête qu'on voit à la fin. Je pense que on est plein, hein. On pourrait croiser Andy Serkis demain dans la rue, on le reconnaîtrait pas. Mais en vrai, c'est Gollum, c'est plein d'autres persos, enfin, c'est quelqu'un, quoi. Et elle dit, en gros, dans le milieu de la motion capture, il y a Andy Serkis qui fait Gollum, mais il y a ce gars-là, c'est le deuxième. Et là, il a bossé de fou pour apprendre aux acteurs et aux actrices et aux figurants qui allaient jouer dans The Last of Us comment se mouvoir comme des zombies pris par le cordyceps. Et du coup, bah, ce bloater, ce gros zombie, c'est un mec en armure de latex et en costume. Et je pense que ça joue dans, pour le coup, le poids qu'il a et l'impact qu'il a. C'est-à-dire qu'il fait vraiment peur et il a l'air vraiment lourd. Après, est-ce qu'il m'a plu ? Bon. Vous l'avez chez vous, bof. Ok, qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Rien que le camion qui part à 90 degrés sur la gauche quand le mec se fait snipe, dit Durs, coup de bol le coup de volant quand il est mort pour pas rouler sur Ellie quand même. Ouais, Ellie n'a pas appris à courir en diagonale visiblement et à sortir de la route. On est à la fois sur un cliché de fiction, on a beaucoup de vannes sur Rickon Stark qui nous viennent en tête, on a aussi des vannes sur Prometheus. Et en même temps, je peux entendre qu'une gamine de 14 ans qui est en panique totale et qui est littéralement à se retourner pour essayer de tirer avec son petit flingue sur un énorme camion, elle n'est pas en train de réfléchir logiquement, donc ok. Bon, Joël de sa tourelle snipe la conductrice, car je crois que c'est une femme du camion tank qui effectivement se crache dans une maison, et ça tombe bien car sous la maison il y a un trou. Meluma dit oui, je l'avais vu venir, c'est sûr, mais je ne suis pas convaincue. J'aurais franchement préféré une horde classique attirée par le bruit. Bah, c'est un peu une horde, non? C'est une horde attirée par le bruit, mais sauf qu'elle vient d'en dessous. Mais moi, j'y crois pas trop quand même. Silvéric dit on l'a vu venir, mais c'était super cool. Le côté rapide et vénère désinfecté était kiffant. La sortie de tous les infectés en mode World War Z vénère, c'était très cool, dit Matt. Ok, vous avez kiffé quand même, hein. Vous avez kiffé un petit peu le petit. Ouh! Il grouille là. Quand ça grouille, quand c'est bien modé, on aime bien. Je comprends moi aussi. Bah, encore une fois, je regarde World War Z pour tous les zombies sur le mur de Jérusalem et après je dis « Ah, merci pour rien » et j'arrête. Le livre World War Z est vraiment très bien. Si vous avez aimé l'épisode 3 de The Last of Us, vous êtes légalement obligé de lire le livre World War Z. C'est pas moi qui fais les règles, c'est la vie. Voilà. Izu a dit c'était prévisible, pas réaliste selon le lore que j'ai compris de la série, ou un peu abusé, mais j'ai kiffé. Ça m'intéresse, Izu a, du coup, qu'est-ce qui faisait que c'était pas réaliste selon le lore? Moi, je comprends pas, entre autres, pourquoi on n'a pas dit aux gens qu'il y avait un zombie géant qui existait et qui était un peu invulnérable, parce que je suis là, bah, maybe c'est bien d'informer les gens. Peut-être qu'ils savaient pas, mais auquel cas, du coup, d'où il sort, j'ai envie de dire. Peut-être que lui, comme les zombies de Kansas City, ils ont été repoussés sous la terre pendant longtemps, bah du coup, il a resté vachement plus sous la terre que d'autres champis zombies. Et du coup, lui, il est devenu cette forme finale qu'on croise assez rarement, ce qui, j'imagine, est une forme de justification dans le jeu vidéo. Mais vous savez quoi? Des fois, les justifications jeux vidéo ne font pas des bonnes justifications série. Je n'y crois pas vraiment. Je vous le raconte et je suis là, je vous bullshit un peu, mais je peux vous bullshit jusqu'à ce que ça tienne, quoi. Omezig dit « Justement, je me disais que l'invasion soudaine est un reminder que la menace est permanente. » Alors, ça, j'ai rien contre. Et je pense que dans le débrief précédent, on avait prédit, sans trop se mouiller avec Mathias, que « Ah bah, dans l'épisode prochain... » Ah non. Non, j'avoue. J'avais fait une prédiction qui s'est révélée fausse, puisque j'avais prédit que les humains allaient se battre contre les humains, donc la troupe de Kathleen contre Joël, Ellie, Henry et Sam, évidemment. Ça, je n'ai pas de mérite, c'était très clair. Mais qu'ils allaient se retrouver confrontés à des zombies sortis de sous la terre parce qu'ils avaient oublié qu'ils étaient là, ce qui est pas vraiment faux, et je pensais que ça allait les obliger à coopérer et à travailler ensemble, et que Kathleen elle dise « Ok Henri, je t'en veux pas vraiment, je préfère tuer un zombie que te tuer toi », et elle était là « Non, dans le doute je vais te tuer toi jusqu'à ce qu'une gamine zombie qui fait de la gymnastique rythmique me bouffe la carotide ». And she did it. Écoutez, une femme de conviction, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, et elle l'a fait. Bravo elle, finalement. Matt dit, la petite fille zombie acrobate dans la voiture était chouette. J'avoue, le Big Monstre serait peut-être un peu too much dans une série live. Ouais, vous dites quoi sur le Big Monstre, là? Moi, j'ai pas trop aimé. Ah, il y a Laura qui dit, il y a Laura qui dit, je l'ai pas du tout vu venir à l'attaque des zonzons, zombies. Pour moi, ils allaient être capturés par Kathleen et compagnie. Du coup, quand ils sont arrivés, le stress est parti, car c'était sûr qu'ils allaient trouver leur porte de sortie. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un truc. Moi, j'aime bien, j'avoue. Peut-être chelou. J'aime bien dans les trucs de zombies, quand il y a des gens qui se disent, on peut soit discipliner les zombies, soit en faire des armes. Parce que c'est genre la pire facette de l'humanité, quoi. C'est genre, c'est nous, mais corrompus, et on va s'en servir pour tuer d'autres humains qui sont pas eux corrompus, parce que généralement, c'est pas des gens qui utilisent des zombies contre des zombies. C'est soit ils font des combats de zombies horribles en mode colisée, genre Walking Dead le gouverneur, soit ils lancent des zombies contre d'autres humains qui sont pas infectés. Donc c'est big nono. Et en vrai, j'aurais adoré si il y avait un bail de Kathleen et sa troupe essayent de contrôler les zombies, et notamment le gros monsieur là, et que ça se retourne contre eux. J'aurais trouvé ça, en vrai, vachement mieux. Et limite, j'aurais bien aimé que Henry, Sam, Joël et Ellie, ils n'en savent jamais rien. Eux, ils font leur vie. Ils sortent de la ville, ils sont là. Ah, oh, bah, ça s'est bien passé. Et en fait, nous, on sait tout ce qui se passe à Kansas City dans les 48 heures où ils sont barrés de la ville. Est-ce que ça... Mais embauchez-moi, HBO. Ça aurait été un cru ou pas? Moi, je trouve que ça aurait été un cru. Mais j'aime bien pas savoir, vous voyez. J'aime bien les petites zones d'ombre, quoi. Yuleo dit, dans le jeu, le bloteur, donc le gros gars, est pas invincible non plus, et justement, apprendre à le battre, c'est intéressant, mais là oui, on le voit 2 secondes, et je trouve qu'il apporte pas grand chose à la scène. Alors, je sais qu'un des trucs qu'il apporte à la scène, parce que je me suis quand même renseignée, c'est que quand il tue Perry, donc le mec avec les longs cheveux gris et la barbe grise, là, qui dit, du coup, Perry, c'est le bras droit de Kathleen, visiblement son bras armé, si je peux me permettre. Et quand il voit arriver le gros blotteur, il lui tire dessus au fusil d'assaut et le blotteur, ça fait rien à part qu'il le regarde en mode « c'est pour ta gueule, frère ». Donc, Perry se tourne vers Kathleen et lui dit « fuis, je vais le retenir ». Kathleen est là « d'accord, je suis déjà partie, j'y vais ». Et bah, pendant qu'elle court, on voit Perry se faire attraper par le crâne, par le blotteur et se faire arracher le crâne en deux, décapiter littéralement, ce qui est apparemment le signature move du blotteur dans le jeu vidéo. J'entends. Perso, franchement, je vois le blotteur sortir du trou, je suis là, bah, j'y crois plus. En fait, j'y crois plus. Ça ne marche pas, je trouve. Vous voyez, prenez dans votre tête le top 5 des films de zombies que vous avez vus. Et je pense que dans ce top 5, il y a peu de fois où il y a différents types de zombies. Et au max, il y en a 2 à la limite. Il y a les zombies régulaires et il y a peut-être un type de zombie un peu max, un peu vénère, ou un peu limite, peut-être plus faible, plus triste. Il y a le régular zombie et un autre zombie. Là, on a déjà 3 types de zombies et ça fait 20 ans et c'est juste un champignon entre guillemets à la base. Et je suis là, ça commence à être difficile d'y croire en vrai pour moi. Je ne crois pas à ces différents types de zombies. Et plus ça va, plus quand on m'en amène un, je suis là, oui, bah ça c'est un truc de jeu vidéo en fait. J'ai pas besoin d'un mini boss dans ma série télé car c'est une série télé. Et en fait, dans les séries télé, il n'y a pas besoin de mini-boss. Il y a besoin d'ennemis, d'obstacles. Mais pour moi, le mini-boss là-dedans, c'était Kathleen et les révolutionnaires de Kansas City. Et j'ai rien en soi contre le fait que ça se finisse, ce combat, avec l'arrivée des zombies, parce que je trouve que c'est un peu l'ironie dramatique aussi de, bah, vous êtes tellement concentrés sur essayer d'éclater Henry et Sam, qui finalement, en tout cas, ne représentent plus un danger pour vous. Et par la traque de Joël et Ellie, qui, bon, pour le coup, Joël, ils savent qu'ils ont tué quand même 3 gars de leur équipe. Et en vrai, si les rôles étaient inversés et qu'il y avait des gens qui tuaient 3 gars de l'équipe de Joël, Joël, il serait là, on va leur éclater leur daronne, donc ça va, tranquille. Mais j'aurais mieux aimé que ce soit ça, l'histoire, et que, limite, ouais, Joël, Ellie, Henry et Sam s'en sortent, ou peut-être sans quelqu'un, peut-être sans Sam, peut-être sans Henry, je sais pas, ça aurait pu être intéressant, et se barrent, et en fait, nous, on sait qu'ils vont se faire éclater par des zombies, mais Joël, Ellie, etc., ils le savent pas, parce que encore une fois, eux, ils sont sur un chemin, ils avancent, quoi. Ils avancent, et ils s'arrêtent jamais, ils sont sur un genre de tapis roulant jeu vidéo, enfin, vidéo ludique de... on a une quête principale, et du coup, ils veulent pas s'arrêter parce qu'ils vont dans le Wyoming, machin... Et je sais pas, je pense qu'il y avait des trucs à faire. J'ai rien contre la horde de zombies qui vient de sous le sol, j'ai rien contre le peuple qui se révolte, encore moins. J'aurais préféré le peuple qui se révolte et pas de zombies, ça m'aurait plus intéressé, mais ça c'est un goût personnel. Le gros zombie, réserve personnelle. Oh, vous êtes trop chou. Isua, il dit, je me suis dit que c'était un mec baraqué infecté. Et Sarah Mush dit, ouais, genre The Rock infecté. Bah apparemment, non. C'est un type de zombie différent, c'est comme les clickers. Tu vois, les clickers, ils ont la moitié du crâne prise par des formes de... Voilà, de strates, de champi. Et du coup, ils sont aveugles parce que ça bouffe tous leurs yeux, mais ils entendent très bien. Parce qu'ils ont des capteurs champi, I guess. Le bloteur, il est tout... le gros, là, il est tout... Enfin, le grand gros, il est tout... En fait, on dirait un peu Groot. On dirait un peu un arbre. Mais genre, l'écorce de l'arbre, ce serait du champi. Je suis là. Aussi, c'est nul. Enfin, je suis en vrai. Hot take. C'est nul comme design de super méchant champi. En tant que... Alors, déjà, de super méchant pi. Parce que le nom pour un méchant champi, c'est un méchant pi. Et en tant que champologue, qui est l'autre nom de mycologue, il y a plein de champis incroyables qui existent en termes de design, en termes de couleurs, en termes, par exemple, les champis les plus dangereux, généralement, ils ont des couleurs hyper vives. Tout le monde voit la Manitou Mouche qui a son chapeau rouge avec des points blancs, tu vois. Et bah, du coup, peut-être que les zombies champis les plus dangereux, ils pourraient avoir des designs un peu intéressants. Là, c'est genre, le gars, c'est, je suis désolée, c'est une écorce, quoi. C'est un bonhomme en écorce et je suis là-bas. Pff. Alors, c'est sympa d'avoir mis un gars en costume et pas des CGI, et pas des effets spéciaux parce que, je pense, ça fait quelque chose d'un peu plus physique et d'un peu plus lourd et d'un peu plus impactant. Mais, je trouve que ça change pas le fait que, En vrai, cet ennemi, on s'en bat un peu la race, non ? J'ai pas osé finir ma phrase, mais je... En vrai, cet ennemi, on s'en bat un peu la race, non ? Voilà, je dis les choses. Ça aurait été chamé un gros zombie champi à manité. Merci, Matt Moutmout. Merci de soutenir mon programme pour 2027. La Goa réfléchit. Je suis très forte en politique. Il pourrait avoir des tentacules patates partout, sentir les vibrations de l'air, je sais pas, dit Isua. Bon, bah visiblement, ils ont le mycélium quand même qui dépasse de plein d'endroits, mais quand ça arrange la caméra, c'est-à-dire bah, le gros blotteur, on n'avait pas l'impression qu'il en avait beaucoup qui dépassait. Dans le jeu, il crache des spores. Dans la série, il n'y a pas de spores pour plein de raisons, notamment on veut pas mettre les gens derrière un masque. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il n'y ait pas de spores, mais en fait, si vous mettez un méga maxi zombie, il va falloir justifier un peu. Et aussi, je pense... justifier le fait que les personnages n'en aient pas vu en 20 ans. Mais bon, c'est mon avis. Ok. Je vais vérifier que j'ai rien oublié. Si j'ai rien oublié, on va finir sur... Bien sûr, j'ai pas oublié hein, la scène finale de l'épisode, ça non. La mort des deux personnages qui nous ont rejoints à l'épisode précédent. Donc vraiment, ça a été très vite. Et ensuite, si vous voulez, on va papoter. Et puis sinon, on ira se coucher. Mais on va finir quand même sur l'épisode. French Fry dit « Personne ne dit qu'ils n'en ont jamais vu. » Alors, c'est vrai, rien ne dit qu'ils n'en ont pas vu, mais genre... En fait, s'ils en ont déjà vu, pourquoi ils sont pas préparés ? Et s'ils en ont jamais vu, pourquoi ils sont pas plus paniqués ? C'est un peu mon problème, je suis là, genre, franchement, c'est un peu confus, le rapport aux zombies champis. Mais parce que je pense que la série elle-même, elle est là, on veut pas tant être une série de zombies. Hot take. Pendant longtemps... Putain, faut que je me fasse faire un émote hot take, j'en ai trop. Pendant longtemps, les adaptations au cinéma d'histoires de jeux vidéo, et surtout d'histoires de super-héros, parce qu'il y en a eu plus, n'assumaient pas le fait qu'elles venaient des comics ou des jeux vidéo. Et du coup, essayaient de réduire au maximum leurs références aux jeux vidéo, ou les faisaient de façon très grossière, en mode les geeks et les gamers, ça va leur faire plaisir, mais on n'a pas besoin de le faire subtilement parce que c'est des débiles. Ce qui est pas vrai. Franchement, on est hyper smart. Et je trouve, peut-être, que parfois, The Last of Us continue cette tradition en disant, les geeks et les gamers, on va leur mettre un gros méchant pas beau qui sort du sol parce que c'est le gros méchant pas beau qu'ils avaient dans le jeu, et que peut-être que les geeks et les gamers, comme ils l'ont prouvé par leur accueil très positif de The Last of Us, qui quand même apporte de la nuance à une histoire qui... J'en reviens à maybe c'est pas l'histoire de zombies la plus révolutionnaire du monde, no offense tous les fans de PlayStation. Et bah le jeu apporte, enfin la série pardon, apporte quand même de la nuance au jeu. Et je trouve que sur cette Deus Ex Machina invasion de zombies souterrains avec un blotteur, avec le premier blotteur dedans, c'est un peu facile. C'est un peu, peut-être on prend les gens pour des débiles. I don't know, c'est mon hypothèse. Je vois que vous vous abonnez, donc je me dis que j'ai raison. Hot take! Validé. Nescaline dit, bah, quand ça fait 20 ans que tu vis en apocalypse zombie et que ça fait plusieurs années que t'es dans une zone de quarantaine plus ou moins safe, oui, t'as rien vu. C'est vrai. En vrai, c'est vrai. Ok. J'avais peut-être oublié le fait que ça fait 10 ans, au moins, que les gens de Kansas City n'ont pas vu d'infectés. J'avoue. Et en même temps, ça m'amène une autre question qui est, ok. Ça fait 20 ans qu'il y a une pandémie zombie. Zombie champi. Et il y a 10 ans, Fedra a dit « Ouais, t'inquiète, les zombies champis, on les a tous mis sous terre et ils sont vachement pas du tout un danger maintenant. » Source TKT frère. Et après, le reste du monde, ils éclatent Fedra parce qu'ils sont là, bah, vraiment, vous êtes des fils de chiens, donc on va vous éclater. Et après, ils se disent « Non, mais probablement que sur les zombies, ils avaient pas raison. Enfin, ils avaient raison, probablement qu'ils étaient sincères. Genre, c'est bon, ils les ont tous... bien enfermé dans les tunnels et rien de... Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. C'est quand même une fois dans l'humanité, pour une série post-apo, quand même un petit peu... Est-ce que c'est pas un petit peu présent, quoi ? Maybe. Isua dit que ce soit en ville ou même quand elle sait qu'elle va mourir, elle est en mode « bah je vais aller tuer Henry ». Alors oui, Kathleen... Même quand elle sait qu'elle risque sa vie et que Perry d'ailleurs lui a dit fuis et qu'elle est là, oui mais probablement non, bah elle reste sur place pour aller tuer Henry. Pour moi ça se tient parce que c'est un personnage monomaniaque et très clairement en enfin traumatisé 4000 qui a un seul but dans la vie. Et c'est, en fait, je pense sincèrement que Kathleen, c'est, vous voyez, quand on voit un chien courir après une voiture et qu'on est là en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire s'il l'attrape? Il saura pas quoi en faire. Kathleen, c'est pareil. Elle s'est rebellée contre Fedra pour plein de bonnes raisons. Visiblement, son frère était aussi leader de la rébellion. Et quand il est mort, elle a un peu pris son flambeau. Mais elle, elle est plus vénère que son frère. Elle est plus intransigeante et elle est plus cruelle. Du coup, elle a pu mener la rébellion à bien en usant de cruauté. Peut-être que son frère aurait pas réussi, parce qu'apparemment, son frère était hyper sympa. Et guess what, il est mort. Maybe c'est ça. La leçon de The Last of Us. Donc Kathleen, elle a mené ça, mais elle a pas beaucoup d'autres compétences de management, de gestion, de direction. Donc c'était sûr que ça allait partir en vrille. Et elle aurait pu s'intéresser à, ok, comme ça fait 10 ans que Fedra nous a dit qu'il y a plus de zombies, on va quand même aller check maintenant qu'on a tué tout Fedra, parce que peut-être, on va dire, peut-être ils avaient une porte en mode Lost, où il faut taper un code toutes les 48 heures, et si tu le tapes pas, la porte elle s'ouvre. On sait pas. Peut-être il y a des bails, tu vois. Peut-être faut pas prendre des risques, quoi. Il y a Isua qui dit « Kansas City, c'est un exemple d'humains qui ont oublié la menace zombie tellement ils sont des menaces les uns pour les autres. » Non, mais ça, j'aime bien, tu vois. J'adore le... En vrai, je m'en moque un peu, mais j'adore le thème de l'humain est un loup pour l'homme. Moi, ça me va bien. Juste, on est en 2023, on a vu pas mal de... En 2022, pardon. On a vu... Non, pas du tout, en 2023. Oh my god, j'ai oublié l'année. Je suis perdue, on est quand même le 14 février. Bonne Saint-Valentin tout le monde! Bonne fête à mon amoureux Valentin, alias Nodus, actuellement live sur Twitch. Donc, 2023. On est en 2023, l'homme est un loup pour l'homme, c'est un petit peu simple. Va falloir travailler un petit peu, quoi. Alright, on a fini tranquillement sur The Last of Us. Quid de... Alors, on en a parlé un peu. La mort de Sam, la mort de Henry... Henry, moi j'ai bien aimé que ça se passe hyper vite. Alors, fondamentalement, j'ai trouvé ça complètement con que Ellie elle dise pas à Joël que Sam il est mordu, qu'elle lui mette juste du sang sur lui et qu'elle dise oui, ben on va dormir dans la même pièce bien fermée. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, sachant que Tess lui a dit t'es pas immune à être éventrée et que à la limite si elle le fait pas pour elle parce qu'elle elle se pense invulnérable, elle devrait le faire pour Joël et pour Henry, de leur dire en fait machin était mordu. Et elle a beau lui mettre du sang dessus en se disant maybe ça va guérir, je trouve que c'est quand bien même une préadolescente un petit peu trop naïf pour le monde dans lequel elle vit, mais ok I guess. Et après j'ai trop aimé que ça se passe très vite, à partir du moment où elle se réveille t'es là en mode tu vois le gamin dodo, t'es là il est probablement pas en train de réviser ses tables de multiplication, elle le réveille, ce qui confirme once again que sa surdité n'a pas été guérie. Il lui saute dessus, et là, c'est Joël et Henri qui se réveillent et qui sont là en mode « Quoi ? » Henri, il panique. Il voit Joël essayer de prendre un flingue. Il est là « Non, il prend le flingue. Il tire dans les pieds de Joël pour lui dire « Non, tu tues pas mon frère. Ok, j'ai fait tout ça pour mon frère. » Et après, il se tourne vers son frère et il le flingue parce qu'il est là en mode « C'est quoi, tu fais pas ça, mais par contre, moi, je vais juste tuer le truc qui braille là et qui est hyper dangereux. » Et après, on parle et il tue le truc qui braille qui est hyper dangereux. Il est là « Oh non !» C'était mon frère, et immédiatement il est là, bah du coup, tout ce que j'ai fait c'était pour lui, les pires choses que j'ai fait dans ma vie, et où je me considère littéralement, comme j'ai dit dans l'épisode, comme une mauvaise personne, c'était pour lui, donc il est plus là, donc c'est ciao, bye bye. Un bon lundi matin sur Prime Video quand même, hein. Moi j'ai trouvé ça bien. Il y a Isua qui dit c'est intéressant que Henry tue Sam aussi vite. Moi j'ai trouvé ça bien parce que je trouve que ça nous donne toujours cette idée de c'est une backstory qu'on connaîtra jamais. Ça nous donne quand même un peu l'info que, alors il dit à Joël qu'il a jamais tiré, enfin qu'il a jamais été violent. Mais je trouve que ça nous donne un peu l'info de, en tout cas il a vécu les infectés et il a, enfin voilà, il voit un infecté, il tire dessus, il a quand même le réflexe quoi, littéralement il a le réflexe même quand c'est son petit frère, donc dur, et en plus il vise bien, mais ce qui est je pense une logique de série ou de jeu vidéo pour le coup, je pense pas que c'est justifié, parce qu'il dit qu'il a jamais trop utilisé un flingue, donc il y a pas de raison, mais en vrai il était pas loin de la cible quoi. Et le détail que j'ai trouvé vraiment être un très bon choix de réel, c'est que quand Henri, donc il y a quelques scènes dans The Last of Us où ils choisissent de pas nous montrer les moments les plus durs, notamment bah, dans l'épisode précédent quand le jeune Brian se fait tirer dessus par Ellie pendant qu'il attaque Joël et qu'il est en train de l'étrangler, Ellie lui tire dans le dos et ensuite il plaide pour sa vie, ce qui apparemment était à la fois un ajout de la série et aussi un écho à The Last of Us 2, Part 2, le jeu vidéo, où ils ont rajouté des phrases où quand on tue des ennemis, ils appellent quelqu'un qu'ils connaissent, ou alors il y a d'autres gens qui vont les trouver et qui vont dire « Ah non, ils ont tué machin », ce qui veut dire que c'est machin, genre c'est Brian, il a un prénom et t'as tué une vraie personne. Et du coup, c'est ce qu'ils ont essayé d'apporter dans l'épisode avec ce pauvre adolescent qui se fait, je sais pas, il doit avoir 17-18 ans, qui se fait tirer dessus, mais Ellie, elle le tue pas. Et du coup, il a le temps de supplier, de dire « Amenez-moi ma mère, mes jambes, elles marchent pas, on se rapote et tout ». Enfin, c'est horrible. Et Joël, il prend un gros couteau et il dit à Ellie, sors de là, et il tue le mec hors champ du coup. Et ça finit par revenir aux oreilles de Kathleen, etc. Je trouvais ça intéressant qu'il tue le mec hors champ. Il y a quelques scènes hyper dures qui ont été hors champ comme ça. Même finalement la mort de Tess, on l'a pas vue. Alors on a vu le bisou horrible, mais on n'a pas vu la mort de Tess. Là on n'a pas la mort de Henri, on a déjà la mort de Sam, c'est compliqué. Et à la place de voir la mort de Henri, on a un plan sur Bella Ramsey, donc en Ellie, qui pousse. Alors, je trouve, c'est pas très marrant, hein, mais je trouve elle pousse un glapissement d'horreur et de terreur qui est extrêmement réaliste pour une personne notamment jeune qui est traumatisée par quelque chose qu'elle voit. Et c'est pas une réaction cinématographique, on va dire, à un traumatisme ou à une personne qui se suicide. Généralement, on va être plutôt sur un... Alors, pour prendre le gros cliché, on serait sur un cri en mode « Ah !» Voilà, hyper aigu, je vais pas vous le faire. On aurait pu être sur un sursaut silencieux, on aurait pu être sur je mets la main sur la bouche, je mets la main sur les yeux, on aurait pu être sur un perso qui ferme les yeux, mais Bella Ramsey en Ellie, elle ferme pas les yeux, elle regarde et elle fait un bruit de gorge, enfin un vrai truc de en vrai, je suis en mode je sais pas comment en tant qu'actrice t'apprends à faire ça, je sais pas où tu te formes pour faire ce bruit là, et je trouve que ça donne tout son poids à la scène, parce que même si, alors, la série a quand même réussi le tour de force de nous mettre en empathie avec Henri et Sam et de nous faire nous intéresser à ce qui va leur arriver, même si on les voit que quasi, bah, du coup, un épisode, même si on les croise à la fin de l'épisode 4, on les voit que cet épisode-là, on a envie qu'ils s'en sortent, et là, on est à ils s'en sortent, parce que Joël a dit à Henri, c'est moins dur pour les gamins parce que eux, ils ont à s'occuper de personne. Ils ont la responsabilité de personne. Et c'est ça qui fait que c'est facile. Et Henri dit, bah, comme les gamins, ils sont en train de rigoler, du coup, j'imagine qu'on s'en tire bien. Et t'es là en mode, probablement pas. Et cette réaction de Ellie qui, en plus, du coup, l'épisode se finit quand même sur Ellie et Joël qui enterrent les corps, ce qui est à la fois hyper touchant et hyper absurde vu le setting, mais d'accord. Et Ellie qui dit pour le coup c'est elle qui fait une Joël quoi. Elle enterre le corps, elle laisse l'ardoise de Sam et elle met dessus je suis désolée, I'm sorry parce qu'elle avait essayé de le sauver et que je pense que fondamentalement elle croyait qu'elle allait le sauver. C'est ça qui est tragique, c'est que je pense que elle s'endort à côté de lui après avoir mis son sang dans sa plaie et elle pense qu'elle l'a guéri parce qu'elle sait pas comment ça marche. Et du coup c'est horrible et elle lui dit je suis désolée et enfin elle lui laisse le mot qui dit je suis désolée et elle dit à Joël vas-y on y va quoi. Et c'est hyper touchant mais pour moi c'est franchement sur un épisode qui est pour l'instant celui que j'ai le moins aimé de la saison. Il y a quelques petites fulgurances et cette scène là, ce bout d'acting de Bella Ramsey, c'est vraiment une fulgurance dans ce qui se passe quoi. Je vais vous lire sur ce moment oh là là. La quoi quand même fait 2 heures hein solo. Y a pas de souci, on a pas besoin de co-animateur finalement. Cébulo dit j'ai du mal à trouver crédible la réaction de Henri. Est-ce que c'est un réflexe plausible? En vrai, comme j'ai dit, pour moi le seul truc qui me fait douter c'est qu'il dit qu'il a pas l'habitude des armes à feu. Ok, mais bon, on a déjà eu des cas similaires dans des séries. Mais le réflexe, je le comprends en fait. Ça saute, ça bouge, ça mord. Ça fait 20 ans qu'il y a désinfecté. Il est là en mode bam bam bam. Et je pense que, en plus, enfin, encore une fois, c'est un jeu vidéo. Alors, dans le jeu vidéo, est-ce que c'est au joueur de tuer Sam? Ou est-ce que c'est Henri qui tue Sam? Ou est-ce que c'est au joueur ou à la joueuse de tuer Henri? Ou est-ce que tout ça, c'est une cinématique et on a tué personne? Parce qu'en vrai, je me dis, dans le jeu vidéo, des fois, il y a ce qu'on appelle des QTE, c'est des Quick Time Experience, où donc des moments d'action rapide où on est censé, en gros t'as une cinématique, donc un moment où tu joues pas, où il y a juste une scène qui se déroule, et à un moment bah, par exemple il y a une scène qui se déroule et là tu vois donc une scène où tu vois Joël et Henri par exemple parler en cinématique dans leur chambre, et la porte s'ouvre d'un coup et il y a Sam qui arrive en train d'essayer de bouffer Ellie, et tu peux avoir un QTE, c'est-à-dire que d'un coup le jeu te dit appuie sur telle touche de ta manette, et du coup t'es obligé de le faire, sinon il se passe rien, ou alors tu rates. Et du coup, tu te retrouves des fois à appuyer sur telle touche de ta manette et à te rendre compte que t'as fait un truc que tu voulais pas faire en tant que joueur ou joueuse. Mais déjà, t'as pas trop d'alternatives. Ou alors, t'aurais pu attendre, mais t'as paniqué parce que le jeu, il t'a fait paniquer. Ça fait partie de la mécanique du jeu vidéo. Et juste, t'as fait un truc, mais comme, j'ai envie de dire, dans la vie, si on était dans une invasion, dans une pandémie zombie et que la porte, elle s'ouvre en claquant avec un truc infecté qui court sur un autre truc pas infecté, ouais, peut-être que juste t'es là en mode bang bang. Après, faut bien viser, quoi. Omelette dit, je pense qu'Ellie voulait rester éveillée pour surveiller Sam, il le lui a demandé sauf qu'elle s'est endormie. Oui, il lui a dit reste éveillée avec moi parce qu'il avait peur de se transformer en monstre endormant, et c'est ce qui s'est passé, il a été contaminé, enfin, l'infection s'est répandue en dormant, donc par exemple Tess, elle avait eu le temps de le sentir venir et de prévenir, et de prévoir sa mort et de prévenir Joël et Ellie, là, il s'est endormi, ou en tout cas Ellie était endormie pendant que Sam devenait zombie champi. Et ça rejoint aussi dans l'épisode précédent Joël qui avait dit en gros il y a deux moments de je surveille pendant la nuit dans l'épisode précédent, dans le 4 il y a le moment où ils s'endorment dans la forêt et ils sont chacun dans leur sac de couchage, et Ellie elle dit à Joël à la base elle dit est-ce qu'on peut faire un feu, et il dit non on peut pas faire de feu, elle est là parce que les infectés vont voir la fumée, et il dit non les infectés sont trop cons, c'est du champi, mais par contre les gens ils vont voir la fumée, et elle est là mais du coup les gens vont faire quoi, ils vont genre nous kidnapper, et il est là bah ou pire, et elle fait ok, et après quand ils se couchent elle redemande à Joël, elle dit ok mais enfin genre les gens n'ont pas parlé, c'est bon, ils savent pas qu'on est là, genre on est à l'abri, et il lui dit on est à l'abri, et juste après on voit que Ellie elle s'est endormie et que Joël non il monte la garde, donc il y a un thème monter la garde. Et à la toute fin, quand ils s'endorment et qu'ils finissent par se faire surprendre par Henri et Sam, Joël était censé monter la garde, il avait saupoudré, rappelez-vous, des copeaux de verre sur le sol, mais bah il s'est endormi, il a roulé pendant son sommeil, et il avait son oreille droite, qui marche pas bien, qui était à l'air libre, et du coup il a pas entendu les ennemis arriver. Et du coup Ellie n'est pas restée réveillée, parce que c'est une gamine, et que, bah en soi... Il y a pas de raison, enfin en soi c'est aussi le truc, c'est que le gamin il fait rien tant qu'elle le touche pas parce qu'il est sourd, et il est sourd même quand il est zombie, donc il entend pas Ellie bouger, il l'entend pas se réveiller, il l'entend pas dans la pièce d'à côté, donc en fait pour lui tant qu'il voit rien il se passe rien, et là il regarde par la fenêtre il se passe rien, donc en tant que champi il est dormant quoi, il est là en mode ok il se passe rien, et c'est quand Ellie le touche qu'il est là ok let's go. D'accord, sur le bruit de Ellie, vous dites c'est son glapissement est hyper réaliste, ça m'a glacé de fou, c'est vraiment une excellente actrice, sa réaction est on point, glaçant et génial. C'est pas une formation d'acting, c'est dans les tripes. Matt dit, j'aime bien cette fin miroir inversée à celle de l'épisode 2, c'est la mort de Tess et Ellie qui reste sur place émue et Joël qui se casse. Et là c'est Ellie qui se casse et Joël qui reste sur la tombe de Henri et Sam. Elle s'endurcit et Joël s'attendrit. Alors en vrai... Joël avait quand même fait une tombe pour Tess au début, donc Tess elle meurt dans l'épisode, à la fin de l'épisode 2, au tout début de l'épisode 3, avant qu'on arrive sur Bill et Frank, on voit Joël au bord d'un cours d'eau en train d'empiler des pierres, et a priori c'est un genre de tombe de cairn qui fait pour la mémoire de Tess, il n'y a pas son corps évidemment, et en vrai ça n'a pas de sens de transporter ces deux corps pour les enterrer, je suis désolée, I love you Henry et Sam, mais ça n'a pas de sens, vous ne devriez pas être enterrés là, du coup ils n'ont pas emporté Tess pour l'enterrer, mais il lui fait quand même une forme de... On a l'impression qu'il est isolé dans son coin à échapper à Ellie, à esquiver Ellie, mais en vrai, il fait une sépulture pour son amie, voire plus sa bonne amie, comme on dit. Oui ! Ah, il y a Nico qui rappelle que c'est Quick Time Event. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit à la place de Quick Time Event ? I don't know. J'ai dit QTE, Quick Maybe. I don't know. Ah, Omelette dit OK. La scène se déroule exactement de la même façon dans le jeu, donc Henri tue Sam puis se tue. C'est une cinématique et je la trouve plus puissante dans la série pour le coup. Ok, il y a pas de moment où on est obligé de tuer Henri ou de tuer Sam quoi. Isua dit je l'ai vécu comme bon. Je fais s'arrêter ce truc qui crie et on gère la situation après. Et en effet, il y a pas de situation à gérer après. Alright. On commence à avoir fait le tour de cet épisode de The Last of Us. Je vais regarder vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram pour voir s'il y en a auxquelles j'ai pas répondu. Pourquoi Sam attend que Ellie se réveille pour l'attaquer? Parce que il est sourd et il ne sait pas qu'elle s'est réveillée avant qu'elle le touche. Pourquoi Ellie reste dormir avec Sam en sachant qu'il est infecté parce qu'elle a un complexe de Jésus et qu'elle pense qu'elle l'a guéri? I guess. Pourquoi Sam n'a pas attaqué Ellie pendant qu'elle dormait parce que il est sourd et qu'il savait pas, enfin, il se passe rien, il est dormant, quoi. Et elle pensait vraiment être un médicament où elle le sait condamner et c'est pour le calmer. Pour moi, elle y croyait. Mais ça, je pense que c'est ouvert à interprétation, ou alors ça sera peut-être confirmé ou infirmé. Peut-être que dans le prochain épisode, on aura une scène de Ellie qui dit « je pensais vraiment le sauver » et Joël qui lui dit « ben non, gamine », parce que bof, fun, mais c'est la vie. Mais à part ça, c'est la fin de ce débrief de The Last of Us saison 5, saison 1, épisode 5, pardon. Solo, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu et j'avais peu de doutes sur le fait de pouvoir vraiment causer longtemps de The Last of Us, même toute seule. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de me suivre chaque mardi, que ça soit, enfin chaque semaine, que ça soit sur Twitch, en podcast, sur YouTube. Et on se dit à très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.